Bonjour, bonjour à tous,
hey,
bonjour à toutes.
Salut.
Donc, premier podcast d'Indie Collective, premier podcast numéro zéro, comme tu disais tout à l'heure, puisque le plan, c'est d'avoir plutôt des personnes qui sont en train de fabriquer du jeu vidéo, qui sont dans des événements, des choses comme ça. On va commencer avec nous, c'est un peu pour benchmarker. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler de notre association. Et puis on va commencer un peu par se présenter déjà, donc Alexis par exemple commence.
Bah, je sais pas trop quoi dire sur moi, hein. Tu me lances comme ça.
Wow. Bah, tu prends deux mots, une passion, un truc. Et...
Ouais, bah alors moi, qu'est-ce que je peux dire, ça fait super longtemps que je suis dans l'asso. J'étais là à sa création, ce que j'aime bien faire c'est du développement web, du jeu vidéo, enfin, c'est un peu comme ça que ça m'a lancé. Et puis j'aime bien le Japon et des trucs comme ça. Quoi.
Top.
Et le punk.
Et le punk aussi.
Ouais, le punk ouais. Aussi.
En deuxième fan de punk, d'ailleurs.
T'as dit quoi ?
En deuxième fan de punk.
Hein. Ouais, ouais. Ouais, mais pas au même niveau, quand même. Hein. Je suis éclectique, on va dire. Moi, François, président de l'association Indie Collective depuis cette année, enfin depuis l'année dernière.
C'est ça.
On verra si la suite continue comme ça. Non, mais je suis pas stressé, t'inquiète.
François démission.
Mais what ? Mais non, pas du tout. Pareil, j'étais là à la création de l'asso, en tout cas de l'association, pas du collectif. On parlera peut-être du collectif juste après. Donc en 2017. Secrétaire, et puis bah, dans le bureau, globalement. On est tous un peu dans le bureau depuis
ouais.
2017.
Ouais.
Pareil, dev web, les game jams, c'est trop cool.
Passion association aussi, je crois.
Passion association, passion conseil d'administration.
Ouais.
je comptais hier, j'en ai 6 des assos.
Ah ouais, quand même.
Donc, ouais, ça commence à faire. Et puis, ouais, jeux vidéo. Japon, un peu aussi.
Ouais, speedrun et bière.
Speedrun et bière, ouais, tout à fait.
Même, hein,
demain, je speedrun les bières aussi.
Ouais.
c'est un autre concept. Mais
combiner
ouais.
Passion.
Exactement. Puis, bah, Chris.
Ah bah, du coup, moi, c'est Christopher, ouais. Aussi fan de jeux vidéo, aussi fan de dev web, aussi fan de bière. Speedrun un petit peu, c'est fun, mais
ouais, ouais.
C'est moins.
Regardez, c'est cool.
Je fais de la course à pied, c'est un peu du speedrun aussi, littéralement du speedrun peut-être, quoique je ne suis pas si rapide que ça. Mais,
Speedrun de la vie.
Ok. Et du coup, évidemment, il y a d'autres personnes dans l'association,
ouais.
Il y a nos adhérents, il y a d'autres personnes qui sont dans le bureau. Aujourd'hui, d'ailleurs, il nous manque un des fondateurs de 2017, Florent, qui est à Nantes. Qui s'est un peu excentré de la chose, mais qui adhère plusieurs fois, tellement il est fan de l'association.
C'est notre biggest fan, en fait.
Et donc, tous les quatre, nous, on avait décidé de fonder cette association en 2017, hein, mais en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus vieille que ça, puisque Indie Collective, à l'époque, West Indie Collective, ça a commencé en 2011. Hein. Et donc, 2011, pour un peu placer le truc, qu'est-ce que ça vous évoque un peu, 2011 à l'époque, il y a quand même... C'est un environnement différent, il se passe d'autres choses. Pour placer un peu, ça fait quand même 11 ans, pour ouais. Placer les choses. Déjà, tu disais tout à l'heure, c'était un peu François Hollande, le président à l'époque.
Ouais, ouais, c'était pas du tout
non,
le même environnement.
François Hollande, si. C'était pas,
non,
c'était, pas 2012.
C'est, je crois que c'est Sarkozy.
Oui, ouais. Ouais.
Encore c'est 2000... pire.
Ouais. Encore pire.
Ok, pas de politique. Non, bah ouais, ouais, c'était... pas le début de YouTube, mais en tout cas, c'était l'heure glorieuse de YouTube
ouais.
À ce moment-là.
C'est ça.
Tu avais les gros noms, style Joueur du Grenier, il y avait Usul, tout ça qui commençait à grossir. Hein,
ouais,
sur ce,
ouais,
sur
vraiment,
en tout cas,
je
sur le jeu vidéo.
À mon avis, c'est vraiment la période de professionnalisation du métier de YouTuber.
Ouais.
En tout cas, le début.
Ouais, ouais.
Et puis, c'est vraiment l'émergence, en fait. La monétisation, ce genre de choses qui,
ouais.
À mon avis,
ouais,
sont...
les modèles économiques
après,
qui commencent à se monter. Bah, Twitter a 4 ans. On est à l'iPhone 3, à peu près. Pour placer
ouais.
Le truc, on est au 13 maintenant. Ça fait un petit bout de temps.
Ouais,
Obama, il était toujours à son premier mandat. Donc, ouais, 2011, c'était il y a un bout de temps, quand même. Et donc, pour placer les origines... D'Indico, on était là quand même, hein, ça vient pas de nulle part, ça vient du fait qu'il y avait déjà du jeu vidéo indé, il y avait pas mal déjà de choses qui se passaient, et à Rennes, on est sur une communauté qui se lance à plein d'endroits différents. Il faut savoir que Rennes aussi, c'est d'où vient Ubisoft, plein de choses comme ça. Donc, 2011, pour citer quelques noms, c'est TGPA, The Great Paper Adventure, c'est The Rush. C'est le jeu amateur aussi. Est-ce que vous pouvez raconter un peu des choses là-dessus, sur l'époque et qu'est-ce qui vous a lancé dedans ?
Ouais, bah, surtout moi,
ouais,
je pense
surtout toi, ouais.
Je vais commencer. Donc, en fait, à l'origine, moi, je faisais plutôt la partie de la. Enfin, j'étais à cette époque-là, j'étais au lycée. Je m'intéressais déjà un peu aux communautés amateurs de jeux vidéo en ligne. Et avec un pote, on s'est lancé dans l'idée de d'apprendre la programmation, de faire des petits jeux, des trucs.
Ouais.
Et en fait, en voyant les projets de jeux qui étaient faits sur Internet, on s'est dit, bah, pourquoi on n'en ferait pas la promotion aussi, parce qu'ils ont tout, enfin, il y a une grosse communauté autour de ça, mais ça manque un peu de visibilité. Mmh. C'était vraiment, de toute façon, on vient de la culture jeuxvideo.com, donc ouais. On avait cette visibilité de comment étaient faites les vidéos de présentation des gros jeux, de toute l'actualité qui était faite autour, mais vraiment, on avait cette grosse communauté amateur qui était présente sur Internet, qui n'était pas du tout visible. Et en fait, c'était vraiment sur des forums un peu obscurs que certaines personnes se disaient, regardez, j'ai fait un jeu, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous vouliez y jouer? En fait, notre idée à la base, c'était de mettre en avant ça et de faire une espèce de jeuxvideo.com pour les jeux amateurs. En fait, c'était un peu notre ouais, c'est vraiment nos idoles, on va dire. On était encore au lycée à ce moment-là. Et donc, en lançant ce projet-là, on a commencé à s'intéresser un peu à la création donc amateur,
ouais, ouais.
Locale également. En fait, on était plutôt base internet, mais en fait, on s'est dit, oh, il y a des choses qui se font aussi pas loin de chez nous, donc à Rennes. Et ce serait pas mal d'aller voir ce qui se passe. Et ouais. On a vu la Game Jam, donc la Global Game Jam. Ça devait être, je crois, la première édition qui se passait.
Je te coupe. J'étais en train de regarder. Du coup, la Global Game Jam, la première a commencé en 2009.
Ah ouais, d'accord.
Mondiale, la première mondiale, oui, en 2009.
Ouais.
Et la première de 3Hit, parce que c'est 3Hit à l'époque qui créait, qui hostait cette Global Game Jam à Rennes, c'était en 2011.
Ouais, ouais, voilà. Et donc, du coup, donc on se dit... On va y aller, on va voir ce que ça donne, et puis comment dire, il y a sûrement des petits trucs intéressants. Donc on ouvre la partie avec notre caméra à 2 francs 6 sous, et on se dit, vas-y, on va filmer les trucs, hein. C'est toujours trouvable sur Dailymotion.
Ouais.
Et donc on arrive à la Global Game Jam, on rencontre les gens un peu, qui sont en train de faire des projets et tout, donc vraiment l'esprit roots de l'époque, surtout au Jardin Moderne, donc une salle de musique. Enfin de répétition et salle de concert en même temps, et donc on commence à présenter les trucs, et à ce moment-là on rencontre Aymeric Lenné, donc président, enfin à l'époque je crois président, ouais, si, de
président,
à l'époque, ouais. Président de la société,
président,
toujours.
Maintenant il est directeur,
ouais, bah. Et du coup on le rencontre et il nous dit, bah si vous voulez vous avez qu'à venir au Stunfest. Alors on dit, mais qu'est-ce que c'est que le Stunfest? et du coup il nous dit, bah c'est un festival de jeux vidéo où on fait des tournois et des trucs, et puis si vous voulez vous pouvez avoir un stand, vous m'envoyez un mail et puis ça sera bon. Donc à ce moment-là, bah, nous on se dit, oh trop bien, on est juste des lycéens, on nous propose un stand dans un festival de jeux, trop bien, on y va. Et donc, je renvoie un mail et puis je suis mis en contact avec les gens de 3Hit Combo. C'est comme ça que du coup j'ai rencontré l'association.
Ok, bah attends, à raconter un peu l'histoire de 3Hit Combo aussi, parce qu'effectivement c'est un peu aussi un acteur historique qui a
bah,
en,
année, ouais,
en 2000 et quelques, je ne rappelle plus exactement.
2005.
Ouais, 2005, ok.
Ah, le premier stand c'est 2005 en tout cas.
Ouais.
3Hit, je pense que c'est créé dans ces eaux-là, hein, c'est-à-dire que le premier stand c'était... On le répète assez souvent, mais premier stand, c'est dans un garage. C'est, un tournoi entre potes à dire, bah voilà, on essaye de cadrer un peu les choses et on fait un tournoi cool.
Ouais.
Et en fait, plus, au fil des années, bah, plus ça a été, et plus il y a eu de monde, et plus il a fallu trouver un gros local, etc. Et puis, ouais. Ça a pris de l'ampleur.
Puis ils ont fait ça dans un parking, puis ils ont fait ça au Triangle aussi, un peu plus tard.
Triangle, ouais.
Et puis, je crois que l'année où toi t'arrives, l'année où nous on arrive un peu aussi, l'année, ouais, suivante, c'est
à
l'INSA,
ouais,
dans ce grand gymnase, où on doit tout installer nous-mêmes. Donc ça donne un peu l'idée du festival. C'est pas vraiment le truc professionnel avec des kakémonos, qui d'ailleurs, pas de kakémonos.
Jamais, jamais les kakémonos.
On fait tout nous-mêmes, on installe nos stands, on installe les chaises, tout le monde porte son poids, quoi. Donc c'est un peu ça le thème. Puis du coup, naturellement, on arrive au Stunfest. Stunfest, quand même, au début, c'est du versus fighting, mais ça a quand même pas mal évolué. Et arrivé en 2011, ça change un tout petit peu.
Oui, c'est déjà, à mon avis, je sais plus si c'est 2011 ou 2012, mais c'est déjà la première arrivée des conférences. Et, ouais. Et comment dire, et un petit peu de l'évolution du festival. En fait, c'est juste un tournoi. On va proposer en fait tout un panel de culture vidéoludique,
ouais.
Toutes les formes de jeux vidéo possibles.
Ouais, c'est que le festival il mute petit à petit en un festival juste jeux de combat et qui se transforme en festival de culture vidéoludique.
Exactement, ouais, c'est totalement ça. Et progressivement, on parle de plus en plus de vidéoludique plutôt que de jeux vidéo, et vraiment on essaye de s'installer. Et le jeu vidéo maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose de.
Ouais. Ça. Donc maintenant, plus ça va là, et actuellement on en est à arriver à jeux de combat, jeux indé, un peu des stands associatifs autour du jeu vidéo,
ouais, ouais.
Des conférences, des concerts, du speedrun. Il y a vraiment de l'émulsion dans plein de catégories différentes du jeu vidéo, quoi.
Ouais. Et là où le Stonefest commence vraiment à être mis. Devant les gens, vraiment être officialisé et pris au sérieux, c'est quand ça arrive aux Libertés.
Oui.
Donc là, on est sur, à l'époque, avant le couvent des Jacobins, c'était le lieu où tu pouvais vraiment faire des événements impressionnants. On occupe les lieux en entier, on est vraiment décuplé, et on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que ça, c'est vraiment l'évolution, l'étape suivante. On n'a pas parlé de la Global Game Jam, et on n'a pas défini ce que c'était une Game Jam non plus.
C'est
quand même très important aussi, parce que c'est le cœur de l'association.
Est-ce que on continue sur la partie Stunfest pour pouvoir arriver jusqu'à l'évolution de, enfin, la création du collectif.
Ouais, plutôt.
Et on
ouais.
enchaîne sur les Game Jam.
Yes.
Okay. Enfin, je savais pas trop comment le faire. Du coup, nous, donc, pour resituer, on arrive au Stunfest avec notre stand et on se dit, bah, enfin voilà, on commence à prendre de marque, nos tables. On a été allé voir une petite boutique d'informatique pour nous filer un PC et pouvoir mettre en place notre stand en fait, on n'avait pas forcément le matériel. Et donc on se pose là à côté de The Great Paper Adventure que tu venais de mentionner, donc, qui eux étaient étudiants, il me semble, à cette époque-là. Et qui, je sais que. J'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de ce moment-là, mais sûrement que t'as un peu plus à dire sur le projet, en tout cas.
Je rajouterai après, ouais.
Et donc, eux, c'était un projet donc, de Shoot'em Up, qui était étudiant et qui voulait se présenter en, fait, en même temps sur un petit stand, histoire de montrer ce qu'ils avaient fait et faire parler de leur jeu, en fait, à ce moment-là. Donc voilà, donc on n'était que ces deux stands-là pour représenter la partie indépendante du Stunfest de 2011.
Waouh,
c'est un bon début.
On était juste à côté de la grande scène, en plus, c'était bien. Et puis à côté des fans de Neo Geo, donc c'était un peu original et sympa. Et donc, bah, à l'issue du festival, donc c'était très bien passé. Pour nous, c'était trop bien. Donc, tu as Damien qui a fait le projet TGPA, qui envoie un petit mail à plein de gens. Est-ce que ça vous dirait qu'on se retrouve à Rennes et qu'on discute un peu indé et qu'on forme une petite communauté, un truc et puis bah, du coup il y a des gens qui ont répondu ok et c'est comme ça que le collectif West Indie Collective a commencé.
Ouais, c'est ça, ouais, on est parti justement voir dans les archives, trouver les premiers mails. C'est vraiment des conversations toutes naissantes, hein. Et vraiment il y avait cette idée de on sait qu'il y a des gens qui font des jeux dans les garages, nous on est étudiants mais il y a des gens un peu autour, je pense notamment à The Rush avec Cédric Guillemet, qui était une sorte de wipeout bien avancé, fait entièrement à la main, donc c'est super impressionnant. Et puis on savait qu'il y avait d'autres gens qui voulaient faire briller du jeu, potentiellement étaient autour du sujet, peut-être avaient du talent, mais sur un sujet particulier, genre la création de musique ou l'écriture d'histoire. Puis on cherchait comment un peu lancer cette communauté.
On avait un Google Group.
Ah ouais, c'est
vrai. Wow.
À l'époque c'est... où c'était tout.
Ouais.
Maintenant c'est plutôt Discord, quoi. Mais...
Oui, c'est ça.
Ouais, on a eu un Slack, hein.
Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Wow, on a un peu tout fait.
On a step up, hein. À chaque fois on a step up.
On a
quoi.
Suivi les tendances.
Donc, ça c'était 2012 ?
Non, 2011 du coup.
Ouais. Okay.
Au moment où la création du collectif.
Ouais.
Et après, je pense que Chris pourra en parler un peu plus sur le 2012, sur du coup le week qui se reforme pour aller présenter des jeux et faire venir des gens d'un peu plus loin. Mais on peut parler Game Jam autrement.
Non, si, c'est bien de raconter l'histoire et on passera à la Game Jam ensuite, on fera un fil rouge là-dessus. Et effectivement, moi je vivais ça du côté étudiant, mais là, à ce moment-là, j'étais en L3, Master 1, et effectivement, Damien était dans ma classe, quoi. Donc on se connaissait bien, lui était vraiment passionné par le jeu vidéo, moi j'étais un peu à l'extérieur, Mais quand j'ai reçu ces mails, c'était intéressant quand même. Et donc, on a essayé de construire ça. Et il y avait des personnes que tu connais d'ailleurs qui faisaient un autre jeu, une sorte de MMO avec des, qui étaient dans une autre entreprise qui finalement a capoté un peu plus tard.
Je vois, mais j'ai pas le nom. Mais
ouais, ça va te revenir.
Ouais.
Et donc,
Insane Unity.
Non, ça c'est après.
Ah, c'est après.
Mais du coup. Vu que la porte a été ouverte pour le Stonefest, on est parti revoir Emmerich. Et donc, ce qui est marrant, c'est que je crois qu'en 2012, on avait 3-4 tables West Indie Collective à côté des toilettes. Donc, on a mis un I et ça faisait Week. Et vous, vous étiez à côté.
C'est ça. Nous, on n'était pas encore tout à fait. Enfin, on n'était pas intégrés dans West Indie. En fait, on a fait un nouveau stand de jeux amateurs juste à côté de West Indie.
Ouais.
Donc, même si on était un peu proche. En fait, on s'était pas mis au sein de West Indie, quoi. On était vraiment collés.
Ouais, ouais.
Mais c'était sympa aussi.
Ouais, c'est ça. Et donc, on a vu qu'il y a des gens qui passaient, qui testaient le jeu, et ça motivait bien. Et donc, est venue cette idée de mettre en avant la communauté, de présenter les jeux, de donner un moment où ils pouvaient faire du playtest, du feedback, des choses comme ça. Et donc, l'année suivante, on se dit, on va prendre encore plus de tables. À ce moment-là, tu as Maxime qui est arrivé. Maxime qui venait de sortir d'une boîte de JV, qui voulait vraiment passer du temps sur des projets perso et qui a bien fait carburer l'assaut. Cette année-là, on a repris The Rush, on avait Monique Passion en test de caisse, qui a gagné les troncs d'or de
jeu.
Ah merde, c'était calme dans le magazine.
Honte
à moi.
C'est pas Canard PC, enfin
ouais, c'est Canard PC.
Totalement, ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Qui faisait une compétition de jeux vidéo nul, je crois.
Ouais, ouais. Ça. Et du coup, ils ont fait Monique Passion au test de caisse, le jeu qui rend fou parce qu'on peut pas gagner. Il y avait aussi plusieurs jeux différents, For the King, il y avait Lige aussi, je crois, première année.
Oui, déjà. Oui, 2013, c'est vrai. 2013,
il y avait Shuttlepuck aussi.
Ouais, totalement, ouais. Shuttlepuck Cantina.
Il y avait un truc, alors c'est il y a le pirate là, c'est ce qu'avait fait Damien.
Ouais, avec le
pirate.
Ouais. Avec le
comment motion.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Le truc où tu bouges les bras et ouais, ça fait des top. Actions. Quoi. C'est, ouais. c'est,
et puis là, nous, on était partis avec Florent au MH du coin pour toper de la déco pour faire semblant que c'était vraiment dans un garage. Et du coup, on a mis du papier peint pour
super roots.
On avait un canap. Où tous les matins, la sécu venait nous voir pour nous dire c'est pas assez inifugé, et du coup c'était plus scotch que canap à la fin du festoche. Mais bref, c'était top. Hein. Et je crois que c'est la dernière année qu'on l'a fait
à l'INSA. Ouais.
À l'INSA. Et donc l'année suivante, on devient.
Oui, 2014, la première année aux Libertés.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a des archives sur YouTube de vidéos où on voit votre déco et tout ça, avec des interviews du Schnapps sur le canapé, justement.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est là d'ailleurs où je suis arrivé un petit peu par hasard comme ça. J'étais dans la même classe que Florent, le président à l'époque, enfin ou du moins quelqu'un de l'asso.
À la création.
Ouais, plutôt quelqu'un de l'asso à ce moment-là. Mais
oui, après il devenait président de l'asso. Mais Florent, il m'a dit viens voir le Stonefest, tu vas voir, c'est cool. J'étais là en mode ouais, bah ça fait plein d'années que je vois un festival de jeux de combat. Je suis pas très jeu de combat moi. Et il dit, mais non, t'inquiète, il y a d'autres trucs et tout, viens, tu vas voir, il y a des jeux indés et tout ça. Je fais, oh ouais, ok, je vais essayer. Et du coup, je suis passé en tant que visiteur devant les stands, mais moi, je me rappelle très bien parce que je suis resté pas mal de temps.
Ouais.
J'étais là, ah ouais, ça a l'air quand même pas mal. Et du coup, c'est là où j'embarque un peu dans l'aventure avec vous. Quoi.
Ouais, bah à l'époque, effectivement, t'as le versus fighting qui prend quand même la moitié du festoche. Hein. T'as tout ce qui est jeux
le speedrun aussi arcade, prenait pas mal de
ouais,
place.
Ça commençait, ouais. Ouais. Effectivement. Ouais. T'as les conférences dont on a déjà parlé. Mmh. T'as aussi des concerts.
Ouais.
Donc, des concerts qui sont de plus en plus quali en plus. Hein. Mmh. Et puis, je me rappelais, quand tu rentres dans le Stonefest, tu rentrais dans une bulle et t'avais pas envie de sortir.
Ouais. Il y avait des concerts de 2080 cette année-là.
Ouais, c'est ça, ouais.
Des conférences. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences cette année-là. Des trucs super intéressants.
Bah, y a un beau travail de fait là-dessus depuis longtemps.
Carrément. Donc voilà.
Du coup, le Stonefest grandit. On passe de 5 à 6 tables de la ville à un Liberté où d'un coup, on a 30 projets. On a un bout du premier étage du Liberté. L'indépendance devient vraiment un truc de ouf. Hein. Et on est un tout petit peu submergé parce que d'un coup, ça prend de l'ampleur. Et on se pose des questions sur est-ce que ça va se professionnaliser, on a des boîtes de plus en plus pro, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et donc ça se développe.
Après, je voulais juste dire un truc là-dessus. Le Stone, au Liberté, c'est le seul événement de toute l'année du Liberté qui occupe la totalité du Liberté. Parce que la plupart du temps, genre les concerts, c'est la grande salle, ou alors il y a les petites salles à côté ou l'étage qui est utilisé. Là, c'est le seul événement où on utilise vraiment tous les espaces pour le jeu vidéo. Quoi.
Ouais. Et qui dit communauté créative dit utilisation créative des lieux.
C'est ça.
On a des photos d'un Stonefest où ils ont décidé de mettre des écrans billets. Il y avait des écrans dans les stands aussi.
Ouais.
Ils avaient mis des jeux vidéo dans les gradins. C'était dingue.
Des télé cathodiques et tout ça.
Ouais, ouais.
C'est sympa.
Ouais, ouais. Donc, on a beaucoup parlé du Stonefest. On parlera un peu de ce que ça devient plus tard, mais il faudrait peut-être qu'on revienne sur les Game Jam, parce qu'on n'en a pas parlé trop.
Yes.
Donc, je ne saurais pas du tout situer quand est-ce qu'on a un peu repris la main sur l'animation de la Global Game Jam Arena. Mm. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que pour revenir à 2011, on a visité la Global Game Jam, donc après on a fait le Stunfest, après on s'est dit, on aime bien aussi le développement, la création de jeux vidéo, ce genre de choses, on va participer. Donc moi, personnellement, j'ai participé, je crois, en 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement. Et petit à petit, après deux ou trois participations, en fait, je me suis dit, c'est cool aussi de rien faire d'animer le truc et de venir chaque année pour faire continuer et perdurer l'événement, en fait.
Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le truc qui nous tient à cœur, de savoir comment bien faire une jam, comment porter le truc, comment perdurer le truc. Trois hit combo prend de plus en plus d'ampleur, et nous on s'intègre de plus en plus avec la communauté, et on prend un peu plus de bouteilles, et on se dit on veut piloter un peu aussi.
C'est ça, après ce qui est cool, c'est que Emeric il nous a tout de suite fait confiance pour la globale, parce qu'il a vu qu'en termes d'orga, on commençait à comprendre comment ça marchait, et comment on peut l'aider. Et en fait, on est passé de... une présence pour montrer que l'indé dans le coin c'est cool et qu'il y a quelqu'un qui représente l'indé et la création de jeux vidéo à une co-organisation, co-animation déjà.
Ouais, ouais.
Et une co-organisation, c'est beaucoup plus récent, mais jusqu'à nous refiler le bébé l'année dernière.
Ouais, mais il y avait tout un sujet là-dessus avec 3 Hit Combo qui grossit progressivement parce que finalement c'est comme une boule d'élastique où on scotche. Des trucs jeux vidéo, parce qu'il y a écrit jeux vidéo dessus, il y a écrit ludique, et du coup, il y a de plus en plus de trucs qui se collent dessus. 3Hit subit une DLA, ou plutôt profite d'une DLA pour se restructurer, se développer. Et donc, progressivement, nous, on se retrouve vraiment associés officiellement à certains événements sur Rennes, notamment les Game Jam.
Ouais, carrément. Et puis, nous aussi, c'est là aussi où on voulait aller. Il y avait deux axes au début, on n'en a pas encore parlé, mais vous aviez aussi tous ces temps entre indé que vous faisiez le mercredi soir, qui ont été mis, je pense, peu de temps après les globales, etc. Enfin, les game jam en tout cas.
Je sais pas du tout exactement comment ça a été.
L'idée, c'était de donner une sorte de rythme pour que les gens aient un point de référence et qu'il y ait régulièrement une façon de retrouver les gens. Et on avait bien lancé le truc. Il y avait pas mal de gens qui venaient. Au bout d'un moment, on occupait un bar entier. Donc, c'était l'heure du jeu aussi qui commence à ce moment-là. Et
ouais, c'est ça.
On est les premiers clients presque. Et puis, progressivement, c'était presque uniquement le CA avant qu'il y ait une association qui se réunissait. Donc, on était deux, trois. C'était souvent Florent, moi. Et puis ensuite, c'était François et moi. Et puis, on a un peu calmé le truc.
Et puis après, c'est devenu. On parle un peu de l'indé, mais on boit des coups surtout. Quoi, donc...
Le mercredi, parce que du coup, il y avait aussi ce temps de mardi.
Ouais.
Quelques fois où ça doit être Maxime qui a dû organiser ça, il me semble.
Ouais, très axé sur le développement et vraiment, il voulait que les gens puissent apprendre des choses et mettre les mains dans la pâte pour comprendre. Et d'ailleurs, ça, c'est avec cette école qui s'est montée sur Rennes progressivement.
Active Design.
Ouais, c'est ça, ouais, qui à l'époque était beaucoup plus petit et maintenant, c'est, on voit des pubs dans la ville. Donc, yes. C'est une bonne référence maintenant.
Et ouais, je me souviens de ces mardis, j'y suis allé plusieurs fois où, en fait, entre indés, on se retrouvait autour d'une table et puis on discutait de mécanique de jeu. Chacun présentait son truc et disait qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore et genre de trucs. Il y avait des petites présentations. Quoi. C'était un peu une sorte de game dev after work.
C'est l'aspect un peu communautaire des indés du bassin rennais, quoi, finalement. Ouais. Et moi, j'y suis allé deux, trois fois aussi. Mais alors, c'était plutôt vers la fin de ces temps-là.
Ouais, on faisait un peu des pitacs, des trucs comme ça aussi.
Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment des... Alors, il y avait des questions de fond sur comment faire un bon jeu vidéo. Ça aurait pu être des conférences, hein, clairement, à ce niveau-là. Ouais. Et il y avait aussi le truc du gars qui vient et qui dit « Ah, bah, moi, j'ai un jeu indé. C'est quoi vos tips, vos petites astuces pour pouvoir améliorer? Quel est le business model derrière, etc. Ouais. » Donc oui, il y avait plein de sujets différents et c'était très intéressant en tout cas.
Et donc, Game Jam, donc, pour illustrer un peu, une Game Jam, c'est fabriquer des jeux. Mais c'est pas que ça, c'est assez précis et il y a des règles qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on apprend à optimiser. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment ça fonctionne?
Je t'en prie, François.
Ah merde. non, une Game Jam, alors nous on a l'habitude d'un format de Game Jam, il y en a énormément des différents. Alors, je vais parler du nôtre d'abord, ouais, une infinité au moins. Le nôtre, c'est alors n'importe quel game jam, c'est l'objectif, c'est d'avoir un thème au début du week-end. Alors nous, on fait ça sur un week-end, sur 48 heures. Et l'objectif, c'est de créer un jeu vidéo, hein, tout simplement, en se basant sur un thème. Le thème est annoncé juste au début de la game jam, au début des 48 heures. Donc dès qu'on commence, il y a une phase de brainstorm qu'on fait avec tous les jammers et aussi leurs gars. C'est tout simple, hein. On part du principe de dire, on met tout sur des post-it, toutes les idées qu'on peut avoir, tous les concepts qu'on peut avoir, tous les trucs qu'on peut échanger, on les met sur des post-it, on les affiche pour tout le monde, et l'objectif étant d'extraire du jus de bonnes idées de jeu, et de lier ces bonnes idées de jeu à des gens, et de créer des équipes, et puis petit à petit de créer des jeux... À la suite de ça, quoi.
Ouais, et surtout de s'amuser sur le week-end.
Ouais, voilà.
Si on met l'accent là-dessus, c'est que si le jeu n'est pas fini, il faut être sûr de s'être amusé quand même. Puis, effectivement, la Global Game Jam vient avec ses propres règles qu'on adopte un tout petit peu. Notamment tout ce qui est diversifier, hein, qui sont un peu des contraintes qu'on rajoute par-dessus, qui peuvent donner des idées.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jeu vidéo les achievements, donc tout ce qui est récompense. Ouais. C'est des petits trucs à côté, mais qui, ça fait toujours plaisir de se dire on l'intègre dans le jeu, ah bah ça y est, on a eu notre petit truc, mais ça apporte pas plus de choses que ça. Après, moi je sais que en tant que jammer, j'ai fait quelques game jams à la globale, ça te donne des idées aussi, quoi. Les diversifiers, tu te dis, ah, attends, faut faire un jeu que en noir et blanc. Ah ouais, mais carrément, du coup, il y a moyen avec le thème de faire ça en noir et blanc.
Ouais, ça c'est top.
Ça peut te donner des indices pour avancer dans ton jeu.
Ouais, c'est le cadre de la créativité.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ouais, comme tu dis, Global Game Jam, en fait, c'est... on peut peut-être en parler aussi de la Global Game Jam. C'est une Game Jam bien spécifique qui est fin janvier, tous les ans. C'est une Game Jam mondiale, c'est-à-dire que c'est 48 heures, mais dans plein d'endroits dans le monde, il y a 400 sites qui font la Global Game Jam. Donc c'est, je sais plus, c'est des dizaines de milliers de jammers, hein, derrière.
C'est assez énorme.
C'est une grosse communauté derrière. Le thème est unique pour tout le monde. Et donc bah, 48 heures pour faire ce thème-là. Et Diversifiers, pareil, sont identiques à tout le monde. C'est juste l'interprétation et la conception de jeu derrière qui est différente.
Ouais. Donc nous, on se base là-dessus, on se dit c'est un peu le cœur de ce qu'on est en train de fabriquer. Je crois que je préempte un tout petit peu le sujet, parce qu'avant ça, il y a la fondation, la création de l'association. Parce qu'on arrive à peu près en 2017 à ce moment-là, je crois.
C'est ça, ouais, à peu près. Bon, là, du coup, 2017, on est déjà rodé sur les Global Game Jam. On commence à nous faire confiance sur l'animation, sur la mise en place des choses, parce qu'on connaît bien les lieux et on sait comment ça, les engrenages, comment ça fonctionne.
Ouais.
Donc là, on commence à se dire, ah, c'est cool, mais ce serait bien qu'on fasse, nous, Dico, des Game Jam et qu'on arrive à avoir un concept un petit peu plus fort.
Ouais, une fois par an, c'est pas suffisant. On
aime c'est... En fait, ça devient un peu notre fer de lance, hein, faut le dire.
Et puis, je pense que tu peux rajouter aussi qu'on a participé et fait les Stone Jam aussi, qui étaient légèrement avant, en fait. Ça nous a conforté aussi dans l'idée de se dire, bah, maintenant, on va faire une structure et on va faire nos jams à nous, indépendants de tout le monde, et qui seront à un autre moment, quoi.
Stone Jam, alors, vous l'aurez peut-être deviné, il y a Stone dedans. Donc l'idée, c'est on fait une jam une semaine avant le Stone Fest, hein, et les jeux... seront potentiellement présenter au Stunfest derrière, aux côtés des autres projets. Donc c'est vraiment ça l'objectif, de célébrer tout ce qui est création de jeux vidéo, et ça participait à cette ligne rouge.
Je suis en train de compter, mais 2017, quand il y a eu la création de l'asso, on était déjà à 12 Game Jam qu'on a participé.
Ouais, on enchaîne. Hein.
Dont justement, en fait, les globales et les Stun Jam. Donc Stun Jam, la première, c'était 2015.
Ouais. C'était aux Ateliers du Vent, je crois.
C'est ça. Donc, on a fait 2015-2016. Donc, on a déjà un rythme où on se dit, OK, les Global Game Jam, ça marche. Les Stun Jam, ça marche. Mais c'est, les deux sont faits avec 3 hits. Pourquoi pas en faire nous aussi?
Ouais.
Et surtout, les deux, bah, c'est janvier et puis autour de mai. Quoi.
Mais voilà, c'est ça.
On se dit peut-être, peut-être une en automne.
Et en fait, il y a vraiment ce côté pratico-pratique à ce moment-là, de se dire, oh, ce serait cool de faire d'autres Game Jam où on essaie de se débrouiller un peu nous. Mais vu qu'on est un collectif, bah on n'a pas de, de trésorerie ni quoi que ce soit. Et en fait, le truc pratico-pratique, c'est de dire, bah, en fait, on va passer d'un collectif à une asso.
Ouais.
Auquel cas, on va se mettre des objectifs dans l'asso. Et au moins, on aura une trésorerie et on pourra hoster ce genre de, d'événement. Quoi.
Ouais. Et donc, on passe de l'association de fête à l'association officielle 1901. Et on se réunit tous dans un bar pour officialiser ça avec de la paperasse. Tu m'as envoyé une photo
ouais.
l'autre soir.
Exactement. Bah, c'était il y a 7 ans.
Ouais, c'était il y a longtemps.
C'était il y a 7 ans, mais presque jour pour jour parce que c'était hier.
Waouh.
Enfin, c'est il y a 7 ans, mais hier. Quoi.
Qu'on se réunit, parce que la constitution, ça c'est la date, on la connaît tous,
yes.
C'est le 1er avril, donc 2017, le 1er avril, sauf si je me trompe, je crois qu'on signe les papiers autour de d'une base d'objectifs, et on se donne des objectifs plutôt ambitieux, j'ai envie de dire.
Ouais, bah c'est, il n'y a que cette année où on l'a vraiment fait, l'objectif, ouais. Donc oui,
bah,
c'est
faut,
très
faut
ambitieux.
Le fêter, hein.
Ouais, ouais, carrément. Juste pour, pour préciser, en gros, les deux vrais objectifs qu'on s'est mis, c'est faire 4 jams à l'année.
Ouais.
Donc déjà, il y a les deux, on comprend les deux qu'on fait avec 3 hits, à savoir la Stun Jam et la Global. Et on essaye de nous-mêmes de rajouter 2 game jams dedans, notamment celle qu'on a pris le pli directement par la suite. On l'a commencé quand ? 2019. Ah, on a mis un peu de temps quand même. Mais on a voulu faire l'Octojam, donc c'est une,
2018, la... non ?
Ben,
il a des archives, lui, c'est
ben
ça.
Non, ben non, monsieur, là je suis en train de regarder mon Excel et c'est 2019. Hein.
Ah, il me semble que c'est 2018. Je vais faire du fact-checking. Okay.
Hein. Fake news. Et du coup, en fait, on s'est dit Octojam, jam d'octobre. Comme ça, ça coupe entre mai et janvier.
Ouais.
C'est nickel. Donc on essaye de faire, on en parlera peut-être aussi après, on essaye de faire ça le week-end où on change d'heure. Et d'ailleurs, ouais. Bientôt, on ne pourra plus faire ça, parce qu'il n'y aura plus de changement d'heure.
On le fera quand même, par
mais
nostalgie.
Mais ouais, par nostalgie. Donc une jam en octobre, Octojam 2018, aïe, 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 je me suis fait avoir. Donc 2018, donc juste l'année d'après.
Ouais.
Donc on part là-dessus et on est sur un autre projet qui est la barbecue jam qui est censée être une jam à la cool autour d'un barbecue en juillet où on est un peu plus chillax mais
qu'on avait déjà testé fait d'ailleurs jeux. Parce qu'on avait fait une Ludum Dare qui
c'est
ça. Une autre jam dans le monde entier qui dure un certain temps et qu'on avait testé aux Ateliers du Vent à l'époque où c'était beaucoup plus roots, beaucoup moins gentrifié, pour ne pas dire des gros mots. Et on a pu faire un barbecue et on s'est dit, c'est très sympa, on devrait retenter ça un jour. Hein. Et genre, 10 ans plus tard.
Et ouais, on n'y est toujours pas à cette barbecue jam. Mais peut-être que, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, il y a moyen de moyenner pour avoir une barbecue jam.
Yes,
assez fortement.
Pas de spoiler.
Ouais, c'est ça, pas de spoiler. Cela dit, donc, du coup, ce que je disais, 4 jams
ouais.
Dans l'année. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est mis pour histoire de se dire une par trimestre, à peu près.
Ouais.
Et l'organisation du Stunfest, en tout cas de la partie 1D du Stunfest.
Donc, on est tout prêt, on a notre association, on est en 2017, on est tout prêt pour le Stun. Sauf que.
Tatatin, il n'y a pas de Stunfest cette année.
Pas de bol.
Dommage. Mais en tout cas, nous. En termes de process, déjà pour le Stun, on commence à être rodé parce qu'on a déjà 3 ans de liberté dans les pattes.
Ouais.
Donc petit à petit, ça commence à s'organiser comme il faut. On nous donne des rôles importants en fait dans le choix des différents studios qu'on va amener, dans juste c'est con à dire hein, mais tout ce qui est organisation du lieu, mise en place des tables, etc. Et petit à petit, ouais, on gagne des grades et on commence à se dire ben en fait on peut le mettre comme objet dans l'assaut, quoi, parce que c'est...
Mais petite particularité de Sénat, c'est que justement à ce moment-là, on se pose la question s'il n'y a pas de Stonefest, est-ce qu'on fait la Stone Jam? Parce que ça n'a pas de sens s'il n'y a pas l'événement derrière. Mais entre-temps, il s'est passé autre chose, c'est qu'il y a eu un peu de développement de la communauté. Moi, je pensais en parler un peu plus tard, mais effectivement, on peut parler de Add-on qui a un peu pris la main sur la partie professionnelle, puisqu'il y a une sorte de découpage entre les développeurs amateurs qui le font toujours pour le fun et les gens qui le font vraiment par but professionnel. Donc Add-on se démarre, Atlant Games aussi. Finalement, la communauté se développe de plus en plus au fur et à mesure.
Ça fait beaucoup de mentions de trucs dont on n'a pas forcément expliqué.
Non, pas du tout. Et allez, hop. Juste le dire parce que
c'est parti. C'est quoi Add-on ?
Du coup, pour Add-on, à mon avis, si je le dis mal, mais à mon avis, c'était un besoin, du coup, comme tu le dis, de professionnalisation et de reprendre en fait ce côté réunion professionnelle et conférence professionnelle pour pouvoir en fait s'élever entre guillemets entre développeurs indés. Ce besoin de, en fait, comme on voit souvent dans les métiers liés à l'informatique, de conférences ou dans lesquelles on va présenter des nouveautés, dans lesquelles on va présenter des techniques, en fait, que ce soit du développement ou du business. Et c'était ce besoin-là, en fait, qui a fait émerger Add-on, surtout aussi dans un contexte où, en 2017, le Stonefest n'avait pas lieu, donc les conférences n'avaient pas lieu. Et donc, c'était ce côté où on a besoin d'avoir quelque chose, mais en fait, vu qu'il n'y a pas le Stonefest, on n'a pas ce support pour pouvoir présenter, en fait.
Et donc, à l'époque, c'était première instance, 3QG. Donc, nous, on était à Epitech avec notre jam, parce que ça se passait en parallèle. C'était pas la semaine d'avant. Les conférences qui étaient aux Ateliers du Vent. Et puis, il me semble qu'il y avait quelque chose au Mabilet.
Possible.
Yes. Et du coup, on a fait la Don Jam.
C'est ça.
Et du coup, nous, oui, comme on avait quand même cette envie de faire une jam, en fait, on s'est dit, on va faire la Don Jam, même s'il n'y a pas de stun. Et donc, pour préciser aussi, Atlant Games, cluster basé à Nantes, qui accompagne du coup des développeurs de jeux vidéo indépendants pour monter leur structure et professionnaliser leur jeu. En fait.
Ouais. Et donc, moi, j'avais une petite note là. Atlant Games, ça arrive après. Ça parle de, oh là là, à Nantes, ils s'inspirent un peu de ce qu'on fait sur Rennes. Et je pense qu'on peut quand même dire un tout petit peu que 3Head Combo et Indie Collective, on a quand même bien lancé la mouvance hein, et que s'il y a plein de projets chouettes, c'est aussi parce qu'on a au moins semé les graines.
Exactement.
Faut croire.
Après, c'est là qu'on s'est un peu dit, en fait, nous, on se place où ? Et, et ça a posé des questions aussi sur... sur notre positionnement, parce qu'on a un côté où on a du très associatif avec 3Head Combo, du un peu plus professionnel business avec Atlant Games, et nous, en fait, on est où ? On est une asso, mais en même temps, on veut parler à des développeurs indés, et ces développeurs indés ont besoin de se professionnaliser pour pouvoir lancer leur projet.
Des
avocats, donc du coup, ça a toujours été un peu difficile, mais je pense qu'en fait, maintenant, on a un peu une ligne où on sait qu'on se pose sur la création et moins sur le business, et si on a besoin de développer le business, on dit allez voir Atlant Games, ils ont beaucoup plus de clés que nous. Par contre, nous, en fait, on a envie d'avoir ce côté un peu je vais pas dire garage, mais un petit peu ce côté comment dire, maison chaleureuse pour accueillir en fait les indés et leur dire on est là pour partager la création de jeux, comment améliorer votre jeu, comment votre jeu se place, qu'est-ce qui est intéressant dedans, et puis faire émerger aussi des nouvelles perspectives pour certaines personnes qui voudraient se lancer en fait. Un petit peu en fait presque légèrement avant la professionnalisation.
C'est ça, et puis mine de rien, au fil des années, on commence à avoir une petite communauté.
C'est top.
Faut le dire aussi.
C'est un peu ce qu'on a subi un peu la même chose que 3Head Combo finalement, parce qu'on se dit on va prendre tout ce qui est indé, on est dans le coin. Des fois on se sent un peu menacé par des gens parce qu'on se dit ils volent notre feu. Mais justement, on commence à être plus serein dans nos bottes, on commence à savoir ce qu'on a envie de faire et à être beaucoup plus proche du fun, du créatif, de la source vraiment de l'association et du collectif avant.
D'où le fait de faire des game jams où là, on est sur le début de la création et pas trop trop dans la finalité de ce qui est le marketing, etc. Parce que déjà, ben, je pense qu'on n'a pas forcément les compétences pour, et en même temps, est-ce qu'on a l'envie, je ne sais pas.
Non, parce que là, on est sur la partie, on s'amuse, j'ai une idée, 48 heures, l'idée, elle peut à peu près vivre, mais après, il faut commencer à faire des sprints, et des Kanban, et des trucs comme ça.
Des business models, et tout ça.
Si les gens ont la passion d'emmener ça jusqu'à finalité, tant mieux pour eux. Ouais. Et puis, on a vu justement des projets le faire. Je pense notamment à Damien, qui ensuite est parti faire Pixel Nest.
Ouais.
Ils ont fait un projet de ouf. Maintenant, ils l'ont clôturé, parce que je pense qu'ils se sont bien amusés, ils sont partis vers d'autres trucs. Puis on a vu plein d'autres projets se décoller finalement.
Ah, c'est clair.
Moi je pense que c'est ça aussi qu'il faut noter. Je sais pas si on en est à parler de ça, mais c'est le côté où en fait on a vu passer des indés qui au départ étaient juste des petits développeurs dans leur coin.
Ouais.
Et derrière en fait on se retrouve à se dire mais en fait eux maintenant ils sont connus dans le paysage vidéoludique français en général quoi. C'est enfin, si je prends l'exemple de Michael Pfeffer qui était là, dès en 2012, il était présent avec un jeu sur un iPad. Et genre un ou deux ans après, il fait Out There et c'est genre un gros jeu vidéo indé français qui maintenant, genre, il y en a trois ou quatre opus de ce truc, de ce jeu. Et pareil, Pixel Nest aussi qui a bien fait parler d'eux. Enfin, il y a eu des gens qui sont passés et en fait. Rien que la taille de la zone indé en fait prouve aussi que on a vu passer du beau monde quoi.
Ouais, c'est celui qui a marqué le plus hein. C'est peut-être aussi parce que c'est l'histoire perso. À l'époque je me suis retrouvé un tout petit peu tout seul dans West Indie Collective parce que Florent venait de partir et on était dans un creux. Et là c'est Maxime qui est arrivé, on était presque deux à se dire comment on va lancer ce truc là et là apparaît un jeune Corentin qui a 17 ans, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qui vient de sortir du D1 en plus, quoi, donc qui est bretonnant et tout. Avec deux potes, hein, ils ont formé Concrete Games, ils font des jeux complètement déjantés, ils font des stands complètement tarés au Stunfest. Hein, ils montent cette boîte, ils font 3-4 jeux, et puis après, Corentin, il part à Singapour, donc c'est complètement fou comme histoire. Hein.
C'est vrai qu'en plus, ils ont un peu ce côté, je vais pas dire antithèse, enfin, je sais pas comment le dire, mais un petit peu ce côté. On n'a pas l'habitude de voir dans des devs indés en fait, qui vont plutôt faire un projet un peu carré, un peu connu, mais qui rajoutent une petite mécanique ou un petit truc. En fait, ils vont faire, eux, ils font des projets de ouf qui tournent le cerveau et puis qui réinventent un peu les clés.
On est plus sur un peu de l'art, côté de l'art.
Oui, c'est ça, carrément.
Mais tout en ayant du gameplay, quoi.
Ouais,
mais
parce que leur jeu, celui où ils mettent le plus l'accent, c'est celui avec les motos.
Apron.
Ouais, Apron, où ils sont réellement en train de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et ils développent le jeu vraiment sur le
feedback. C'est exactement ça qui a fait le buzz.
Pour le coup, c'est peut-être leur jeu qui est le plus...
Mainstream.
Ouais, c'est ça, mainstream. En fait, dans la conception, dans la façon dont il est fait, c'est vraiment un petit côté mainstream. En fait.
Là, c'est un jeu à streamer, à faire du scoring, etc. C'est exactement ce que recherche le casu de base. Quoi. Donc,
Ouais. Est-ce que toi, tu as un studio, une boîte qui t'a marqué
Après, c'est plutôt le côté vraiment la confection, un petit peu l'orfèvrerie, tu vois. c'est Christophe qui a fait Takosan. Qui donc c'est
Takosan,
c'est ça.
Save Me Mr Taco du coup.
Save Me Mr Taco.
Qui du coup est un projet assez répandu, enfin qui a pas mal
oui,
de références, enfin, qui est assez connu
parce
aussi.
Parce qu'il a été édité par Nicalis. Bon, ça c'est pas super bien passé, mais en tout cas, le jeu est sur
comme podcast.
Ouais, le jeu est sur Switch, donc il a pris un peu d'engouement derrière quoi. Et le principe de base c'est de je veux faire un jeu de plateforme en 2D comme si c'était sur Game Boy avec les mêmes palettes de couleurs que le Game Boy. Et le gars, il a cru à son projet dur comme fer et il est allé jusqu'au bout de dire je fais mon jeu au complet et il a même poussé le truc jusqu'à aller dans une maison, dans une host house à Kyoto pour récupérer un petit peu d'art japonais, de culture japonaise, pour pouvoir...
Il a Kujo Yama, je crois, il me semble.
Ouais, c'est ça. Et
t'as pas l'air convaincu.
Non, je sais pas. J'en sais rien.
On peut pas te contredire.
Mais non, mais j'en sais rien. Mais ça doit être ça. Mais... Que... Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et pour s'imprégner de la culture japonaise et en mettre encore plus dans son jeu. Et clairement, ça se voit que le gars, il est passionné. Et, ouais, ouais. Et franchement, le jeu, c'est son bébé, quoi. Et en plus, c'est un peu frustrant parce que c'est quelqu'un d'assez timide, je trouve. Et donc, bah, tu lui dis, mais ton jeu, il est incroyable. Il est là, ouais. Oh non, je trouve pas. Et tout. Donc,
et c'est assez
humble.
C'est un des gros sujets d'essayer de monter cette communauté. C'est que c'est pas pour rien que ces gens sont très créatifs, mais aussi dans des garages, dans leur coin. Ils veulent pas se mettre en avant.
Ouais,
nous, on a envie de les mettre en avant.
Oui, c'est clair. Bah, c'est un peu ce qu'on fait au Stun aussi. C'est qu'on essaye de leur donner leur moment de gloire un petit peu. Puis voilà, quoi.
Ah, c'est top, hein. Donc, on fabrique cette association sur une base de 4 jams, donc une par saison presque, on peut dire. Aussi, le Stonefest, qu'on a envie d'officialiser le fait qu'on participe à ça et qu'on est créateur de ça.
Yes.
Et puis, on se donne une sorte de parenthèse derrière de fabriquer des choses autour du jeu vidéo.
La régie qui nous parle.
la régie qui nous montre ce chiffre-là.
Ah, qu'on voit et qui est très beau, merci beaucoup.
Merci.
Chiffre magique. Donc je disais, c'est cette parenthèse de fabriquer des choses autour du JV. Ce podcast en fait partie. Le site web qui répertorie les projets, les événements, tout ça, qu'on n'a pas encore trop officialisé, mais qu'on continue à développer, qui en fait partie aussi, et qui permet de répondre à un problème de on ne sait pas trop combien il y a d'associations, ça va s'empirer en plus, parce qu'il y en a de plus en plus.
Ah oui, bien sûr.
Le nombre de projets, les personnes qui en font, et peut-être un jour faire que les créateurs de jeux peuvent se retrouver de façon plus organique.
Oui, ça va arriver bientôt, ça.
Et puis, un autre projet qui est une parenthèse, mais une parenthèse humaine à part entière, qui est toute une histoire, qui est une histoire très drôle pour nous, parce que finalement, ça sort un peu de nulle part. Bien, c'est Jean-Michel.
Ah, Jean-Michel.
Le point Jean-Michel.
Qui un jour va partir tout seul, devenir sa propre association.
L'asso Jean-Michel Jam.
Donc, racontez l'histoire de Jean-Michel.
Aïe, aïe, aïe. Oh, vas-y, Alexis, j'adore quand tu la racontes.
Une fois.
Alors, je ne sais pas du tout comment je la raconte, mais bon, on va improviser.
Alors, c'était quel Global Game Jam déjà ?
Ouais, déjà, ouais.
Alors, déjà, je sais déjà plus l'année, tu vois, tu commences.
Ouais, ouais.
Non, en fait, c'est juste une certaine année, en fait, on a trouvé une pancarte une pancarte taille réelle d'une personne, enfin, une photo, en fait.
Ouais.
Une silhouette qui avait été utilisée dans un clip de musique qui avait été tourné au Jardin Moderne, donc à l'endroit où on fait la Global Game Jam. Et cette pancarte, en fait, bah, on se dit, oh, c'est rigolo, il y a un mec qui est, qui est imprimé sur une pancarte. Bah, on la prend et on va la poser là, en plein milieu du stream 24-24, parce que c'était streamé en direct.
La nuit aussi.
Ouais, tout le temps. Et du coup, en fait, je sais pas, on passe à côté, hop, on la change de place. Et donc, au fur et à mesure de la nuit, en fait, la pancarte, elle se déplace. Et de temps en temps, il va juste y avoir la tête qui va apparaître sur le stream.
Mais l'objectif, c'était de le rendre super creepy dans des coins d'image et tout, et à des endroits super loufoques.
Et j'ai des photos où il était en plein milieu des jammers. Et du coup, tu te dis, c'est bizarre, il y a une silhouette d'un mec qui est là. Et donc, en fait, cette pancarte-là, qu'est-ce qu'on en a fait ? En fait, comme on l'a retrouvé tous les ans, bah en fait on s'est dit tiens c'est rigolo et tout, bah en fait on va commencer à l'utiliser un peu plus.
Ouais.
Et donc en fait c'est devenu presque notre mascotte de l'association.
Bah, ça commence par dans notre Discord il y a un compte JMJ qu'on a mis un petit bout de code derrière qui fait que JMJ on peut l'emmener dans nos conversations audio, dans les streams, des choses comme ça pour qu'il dise des trucs. Hein. Qui vient de ton projet à la base François avec
le projet de bouton, ouais.
Voilà. Donc on appuie sur un bouton, ça nous donne un soundbite.
Les boutons.
Comme ça.
C'est magique. Wow.
Du coup, on branche JMJ là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, on rajoute des fonctionnalités au bot.
Finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et au final, après, maintenant, il y a même le compte Twitter.
Il y a le compte Twitter.
Et du coup, le compte sur Twitch aussi.
Ouais.
Et en fait, ça devient un peu, ouais, carrément un personnage à part entière de l'association et qui est toujours marqué sur nos comptes rendus comme étant présent.
C'est vrai. Et il y a dans les diversifiers aussi.
Souvent, oui, c'est ça qui est important de rappeler. C'est que aussi, bah, en fait, cette image, donc, on l'a numérisée. Ouais. Et comment dire, comme maintenant on l'a, en fait, on dit bah, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser dans vos jeux. Donc c'est un petit diversifier, un achievement, un objectif facultatif, je cherchais le mot.
C'est ça.
Que chacun peut utiliser. Et puis on a eu des fanarts maintenant.
Ouais, c'est ça, c'est que les gens se prennent au jeu et ils se disent bah ok, bah moi je vais le redessiner, c'est ou ça, je vais le ça. Refaire et je vais l'incorporer.
On fournit la photo, mais au final en fait ils en font un peu ce qu'ils veulent et ils le redessinent et derrière c'est réintégré. Donc on peut dire que le point culminant en fait de cette personnalité, c'est que maintenant en fait on a essayé de développer un espèce de lore du personnage
le Jean-Michel Jam Cinematic Universe.
C'est exactement ça, en fait. Au fur et à mesure, on a fait quelques petits photomontages, ce genre de choses, et en fait, c'est un peu devenu un personnage avec son histoire.
Mon préféré, c'était JMJ Bernie Sanders. C'est top.
Hein. Oui, au moment, la photo de Bernie Sanders.
Avec des gants.
Le photomontage, ouais.
Et puis, il y a sa page Wikipédia aussi.
Il y a sa page Wikipédia.
La dernière chose qu'on a fait, c'est ça. On a repris un modèle de page Wikipédia et on en a fait une vraie page avec, enfin pas une vraie page bien sûr, mais une fausse page avec les informations en fait de ce qu'on s'est dit. Oh tiens, qu'est-ce que c'est son lore et on a détaillé un peu tout avec les fanarts, l'apparition dans le clip puisque finalement c'était ça l'original. Et voilà.
Il y a aussi les émotes Twitch.
Oui, c'est ça. Oui, parce que depuis qu'on est passé en affilié, donc l'année dernière, on a le droit à des émos sur Twitch et au final, on n'avait rien à mettre, donc on a mis la tête de JMJ qu'on peut utiliser partout.
Oui.
À partir du moment où on est abonné.
Donc c'est, voilà. C'est une histoire qui, je pense, est aussi top pour nous parce qu'on est presque spectateur, même si finalement on tire sur les fils, on a des fois l'impression qu'il bouge tout seul.
Ouais.
C'est un peu ça, bah, de par le bot surtout, en fait, le bot, le Twitter, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des gens derrière, donc, mais au final, peut-être que c'est
ça
moi qui ai
le
plus la proximité, vu que je gère le Twitter. Et...
Oh, quoi ?
Et ouais. Du coup, au final, bah, pas. Vous voyez de temps en temps passer un tweet et vous dites « Oula, qu'est-ce qu'il a dit encore ?»
Oui, alors, Jean-Michel Jam, c'est quelqu'un d'un petit peu politisé, un petit peu réac. Ouais.
Ah bah, c'est dans son lore. Hein. Il s'est présenté aux élections de sa ville locale, qui est Sainte-Jame-sur-Sarthe.
Et oui, tout à fait.
Et donc, il a eu que 2% des voix ou 3%, je ne sais plus.
C'est ouais, mais par contre, il était en première ligne à la CGT.
Incroyable. Exactement, la CGT Vosges. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il est allé les aider.
Il a tout fait. C'est Bernard Lavilliers, les gars.
C'est Bernard Lavilliers, ouais. Exactement. C'est
et
un
puis,
peu notre Bernard Lavilliers.
Un jour, peut-être qu'on fera un podcast avec l'inspiration, l'origine.
On cherche, oui, toujours à pouvoir avoir la vraie personne qui est à l'origine de l'image.
C'est un sujet à aborder, mais
c'est,
pas aujourd'hui.
Ça fait un peu l'émission La perdue de vue, où tu retrouves ta famille ou des trucs comme ça. C'est genre, on fait un appel, Jean-Michel Jam.
C'est ça, ouais, à la caisse. Et du coup, on vient de faire JMJ, hein, c'est le quart d'heure JMJ. On va mettre un petit jingle.
Quart d'heure JMJ
2017, 2018, 2019. En fait, on prend nos références, on prend nos références et on se lance bien, on commence à bien savoir comment faire les choses et on se dit genre, 2020, ça va être l'année.
on est parti. Là, tu vois le mec qui est en haut du saut à ski, là, il est prêt, là. Genre, genre, on y va, quoi. Genre, on se lance et ben, en fait, il y a un mur au bout.
Ouais, ouais. C'est vraiment... Tout le monde est passé dedans.
Ouais.
2020, vous rappelez-vous, on avait plein d'espoir, on était optimistes. Bon, il y avait Donald Trump, ça c'était autre chose. Mais
techniquement, il n'était pas déjà. Il avait perdu. C'était
fin
2020.
Non, alors 2020, on a quand même fait la Global Game Jam en janvier.
C'est ça.
Pour déconner, on a ramené un pack de Corona. Pour déconner, on s'est dit les Chinois, dis donc, avec la Corona, tout ça. Voilà, et puis deux mois après, niette, quoi.
On riait un peu moins. On avait fini les Corona.
D'ailleurs, 2020, ce jour-ci, donc on est le 19 mars, donc le 19 mars 2020, a été annulé le Stunfest 2020. Voilà.
Ça fait très des dates comme ça.
Facebook me rappelle qu'il y avait l'annulation il y a 2 ans. Quoi.
Mais du coup, pour nous, c'est aussi. on a des ressources, on réagit, on est réactif, hein, et on est très numérisé. Et justement, on apprend à se développer en dehors de Rennes, sur le net. Hein.
C'est ça.
Puis ouais, on a, en fait, on sait surtout aussi avec le confinement, on a besoin de faire des choses.
Ouais.
Et du coup, en fait, on se dit, bah, ça serait pas mal qu'on lance un truc, qu'on fasse quelque chose, parce qu'au final, pas de Stunfest, là, ça vient de... Enfin, il y a un peu cette ambiance confinement qui s'est déclarée, avec pas mal de choses qui commencent à passer sur le net, pas mal de choses qui se lancent.
Ouais.
Et on se dit, bah, pourquoi pas, nous, on ferait pas quelque chose.
Ouais, et puis nous, on avait dans l'expectative de préparer le Stunfest, de préparer la Stun Jam comme tous les ans.
Ouais.
Arrivé à la période du stun, on se dit oh, c'est dommage, il n'y a pas de jam quoi.
Ouais, ouais.
Et donc là,
Confi Jam.
Arrive, qui est un super jeu de mots en fait. je pense que c'est un de nos meilleurs quoi, avec podcastique. Hein, mais
il est en train d'entériner le nom pas choisi.
Ah, merde, il n'y a pas eu de vote, fait chier.
Mais en tout cas, c'est le développement de déjà notre QG finalement, c'est le Discord. Et on commence vraiment à prendre l'habitude de faire des événements en ligne avec du stream, de la vidéo, des échanges. Et Yvan a beaucoup pris parti à ça.
C'est ça, moi j'allais dire un gros big up à Yvan qui a une culture technique du Discord qui nous a fait des channels et tout, mais au poil de cul, mais c'est incroyable quoi. Enfin,
ouais,
vraiment,
parce qu'au final, vu que ça.
De retour de toutes les jams qu'on a fait en hybride ou en virtuel, tous les jammers que j'ai pu avec qui j'ai pu discuter après, ils m'ont dit le Discord, il est génial, c'est vraiment trop bien. Et ça a retranscrit un petit peu ce qui se fait en physique à distance. On n'a pas cette impression de coupure, quoi.
Ouais, donc vous êtes en train d'un peu de dessiner de la magie Discord. Non, c'est un podcast, les gens sont un peu frustrés.
Ouais.
Discord, c'est des channels pour se parler, des channels pour s'écouter. Mais comment est-ce que nous, on utilise Discord? Comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce que ça devient pour que vraiment on puisse faire des jams de façon comme si on était là sur place?
Est-ce que Yvan, tu veux en parler ou pas? Non, t'as pas envie. D'accord, très bien. Il y a un truc qui est assez intéressant dans Discord, c'est l'utilisation des rôles. On peut mettre des rôles sur les gens ou les gens peuvent s'attribuer des rôles. Alors nous, on a mis un bot qui permet de... Tu choisis un emoji et en fait, ça te donne le rôle.
Ouais.
Et en fonction de ça, alors les rôles qu'on avait faits, c'est typiquement développeur, graphiste, sound designer, game designer, scénariste, etc.
Ouais, musicienne, voilà. C'est ça. Ouais.
Ou âme curieuse, tout simplement.
Ouais.
Et en fait, tu choisis ton rôle et ça te permet de te catégoriser, entre guillemets, dans tous ceux qui font de la musique, ceux qui font du graphisme, etc. Et à partir de ça, ce qu'il y a d'autre dans le Discord, c'est qu'il y a une gestion d'équipe.
Déjà, ouais.
On a des sections avec différentes équipes où les gens, une fois qu'ils ont, on va dire, dégrossi leur travail de brainstorm, ils vont occuper toute une section d'équipe où ils ont des channels textuels et channels vocaux pour pouvoir échanger tout le long du week-end.
Ouais.
On a aussi ce principe de faire des plénières, c'est-à-dire on prend le micro, soit on se met sur Twitch en plus de Discord, soit on fait juste ça sur Discord, ça dépend des jams qu'on a fait. Et on présente, comme là, on peut présenter la game jam, le thème, etc., discuter un petit peu et échanger avec les jammers si besoin. Et voilà.
Et donc, finalement, on réussit à faire de la retranscription du stream avec 50 personnes qui peuvent montrer en plus leur projet.
C'est
alors
ça.
Qu'on est un peu réparti partout en France. Ouais. Et je rajouterais la cerise sur le gâteau. C'est que les serveurs Discord ressemblent au lieu physique et donc on a un sens que c'est un lieu qui
ouais, tu rentres dans un lieu, quoi, vraiment.
C'est
ça. Ouais.
Le premier, c'est le jardin moderne, les salles de répète, il y a la cafette, il y a même des toilettes hein, pour poster des choses drôles. Vraiment, tu as l'impression d'être venu dans un
lieu
physique.
D'y être un peu, quoi, ouais, ouais. Carrément. Et après, c'est intéressant ce que tu dis sur les restitutions parce que. C'est un peu notre point de problème qu'on a dans les game jams physiques, c'est la restitution où la plupart du temps, on n'a pas un temps infini pour présenter les jeux, malheureusement. Alors que pour autant, c'est la finalité du truc. Hein. On veut voir des jeux qui sont plus ou moins finis, mais au moins qui sont intéressants à regarder et à jouer.
Mmh.
Et on a, en fonction des lieux là où on est, on n'a pas forcément le temps, donc on est obligé de limiter le temps de présentation des différents jeux. Et de fait, dans ce temps de présentation, eh bien, il y a tout le temps de setup qui est de tu ramènes ton PC, tu le branches en HDMI, le HDMI ne marche pas, ah ouais, non, parce que là, moi, j'ai besoin du son, donc il faut le jack. Mmh. Et en fait, bah, si ça ne marche pas pour un projet, c'est compliqué. Mais on peut en avoir 12 ou 13 des jeux comme ça, donc bah, mine de rien, on perd du temps avec tout ça. Chose que, dans le côté virtuel, on n'a pas ce problème-là, ou alors très très peu.
Ouais, faut pas sous-estimer non plus le coût du « je partage mon écran, ah, vous avez pas le son, pourquoi ?»
Ouais, il y a ça aussi, mais bon, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup moins de problèmes avec ça.
Et puis
ouais.
On pourrait trouver, je pense, des solutions, à mon avis.
Ouais.
C'est pour améliorer ça. Le problème, c'est la connexion Internet, puisque finalement, il y a des gens qui décident de faire la jam dans un lieu physique qu'ils vont partager
ouais.
Et qui vont passer le week-end ensemble. Donc c'est, pour moi, ça ouvre des voies plutôt qu'en fermer, et on va voir justement comment ça se développe. C'est très intéressant.
C'est ça. Et en fait, à partir de la config jam, on a continué à en faire. Et on a, alors, la Global Game Jam 2021 était en virtuel aussi. Mais depuis celle-là, on essaye de faire des hybrides. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve un lieu physique où les jammers vont pouvoir venir, s'ils le veulent. Et on continue quand même d'avoir ce fonctionnement de Discord où les gens viennent se connecter et échanger là-dessus.
Et c'est un segue parfait, puisque aussi arrive à ce moment-là l'apparition d'un nouveau lieu dans lequel nous sommes actuellement.
Yeah
l'Hôtel Pasteur, mais surtout l'EduLab. Hôtel Pasteur qu'on avait déjà visité un tout petit peu auparavant, mais c'était un
alors,
petit peu
rouge. Ah, est-ce qu'on peut, pas, on peut faire une petite virgule, petite virgule là, juste là-dessus sur l'édition 2016 qu'on a faite, ou 2015, je ne sais plus, l'un ou l'autre, on a fait une édition un peu pirate ici, dans le sens où on a fait une stun jam où la veille ou l'avant-veille, on avait un lieu, et en fait, c'était pas du tout possible de faire la game jam, donc c'était la cantine numérique au champ libre, oui, tout à ça. Fait. Et en gros, ils nous ont dit la veille que c'était pas possible, donc il a fallu en urgence trouver un lieu. Et on a atterri à l'Hôtel Pasteur, dans l'autre aile de l'Hôtel Pasteur, juste de l'autre côté, où le bâtiment était avant travaux, donc presque en friche, on va dire. Totalement en route, les murs nus, vraiment le truc qui a 30 ans d'existence, qui n'a pas bougé. Et c'était une école de faculté de sciences à cet endroit-là.
Ouais.
C'était pas les dentistes, mais c'était les sciences. Donc il y a encore les paillasses, hein, elles sont encore là.
Il y a encore les paillasses, ouais.
Et c'est vraiment ce côté ultra roots où on a juste pris des tables, des chaises, on a essayé de brancher sur des prises qui n'étaient même pas très très, très, très légales. Bref. Et en plus, ce qui était incroyable, c'est que c'était à un moment où il y avait des grosses, grosses manifs à l'extérieur. Et c'était un peu la révolution avec les hélicoptères tout le temps. Ouais. Et un gros, gros week-end de manif.
Ouais.
Si bien qu'on a dû barricader les fenêtres et fermer la porte à double tour en bas pour pas se faire envahir par les manifestants dans le lieu, parce que normalement, on n'était pas censé être là. Donc, il y avait ce côté un peu résistance.
C'était top. Hein.
Et,
on entend les hélicos passer.
C'était assez flippant comme truc. Où il fallait pas qu'on mette de lumière pour pas que les gens voient de l'extérieur qu'il y a du monde.
On allait faire les courses, on revenait, ferme la porte.
Ferme la porte. Ouais, vraiment ce côté un peu Fort Boyard, la clé sort, la clé Psydre. Et c'était une drôle d'expérience, mais c'était assez sympa. Quoi.
Ouais. Et c'est une belle parenthèse, hein, puisque justement, ce lieu, on y revient.
Ouais.
Mais de façon beaucoup plus qualitative.
C'est ça. Ouais, voilà. Donc il y a eu des travaux depuis, hein, une grosse, grosse phase de travaux qui a duré deux ou trois ans, ouais, c'est ça. Et donc là, toute la partie de l'aile gauche fait partie de l'EduLab, en tout cas au premier étage. L'EduLab, qu'est-ce que c'est l'EduLab ?
Bah, c'est un super club, c'est un endroit éducatif avant tout pour vraiment permettre aux gens d'explorer tout ce qui est créatif, très axé, tout ce qui est création. Et ça met à disposition des technologies comme ce que vous pouvez voir ici.
Pour ça fait partie de l'EduLab.
S'entraîner, vraiment utiliser du matériel de qualité. Nous, notre intervention là-dessus, c'est de travailler vraiment sur le jeu vidéo, souvent par le biais de jam. Et c'est un lieu vraiment magnifique.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une opportunité incroyable qu'on a eue parce que, faut le dire aussi, hein, on a eu nos moments de galère
C'est clair.
Pour tout ce qui est host de game jam, parce que c'est bien beau de vouloir faire des game jam, mais si on n'a pas le lieu pour accueillir ni les moyens pour pouvoir accueillir, ouais. On en revient à la trésorerie, le fait d'avoir un lieu. On a fait plein de game jam à Epitech,
ouais.
Qui est une école qui est dans le centre de Rennes, tout simplement parce que on n'avait pas les sous pour pouvoir se payer une salle. Pour faire une game jam, hein. C'est, ouais. c'est aussi con que ça. Hein.
Les contraintes sont plutôt violentes, puisqu'il faut que les personnes puissent y rester la nuit, souvent.
Oui, aussi. Ouais. Il y avait aussi cette contrainte-là. Mais mine de rien, juste le fait de dire on veut des tables, des chaises et des prises, t'as plein d'endroits qui te le proposent, mais pas forcément, pas très cher. Quoi.
Ouais, puis Internet pour 50 personnes.
Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il faut,
tout le monde veut installer Unity d'un coup.
C'est ça, faut step up un peu. Et en fait, Epitech, via la Stone Jam, l'Addon Jam,
ouais.
C'est là où on l'a fait la première fois, a accepté qu'on fasse des game jams chez eux, modulo, accueillir dans la game jam des étudiants. Ce qui faisait qu'en gros, au lieu qu'ils payent leur place à la Game Jam, on la faisait gratuite.
Ouais.
Et du coup, ça nous payait le lieu. Et donc, en fait, on était toujours dans cette, entre guillemets, précarité de lieu, où on ne trouvait pas un lieu intéressant pour faire les Game Jam.
Ouais.
Parce qu'on ne voulait pas forcément être lié à une école, hein, on voulait juste un lieu cool pour pouvoir faire des Game Jam.
Ouais.
Et revenir à l'Hôtel Pasteur pouvoir faire ça à l'EduLab, c'est la boucle est bouclée, quoi, en gros.
Ouais, c'est top parce que c'est officiel et c'est presque fait pour. C'est conçu pour. Ouais.
Et surtout qu'on a un infiltré.
Ouais, voilà. Yvan a la double casquette EduLab Indico et en fait, c'est vrai
ça
que.
Ça facilite énormément les choses.
C'est tombé à un moment assez propice pour pouvoir faire avancer les choses et clairement, là, on commence à prendre bien nos aises, je trouve. Et je pense que l'EduLab apprécie notre présence en sein des partenariats. Il lève les pouces, il est content.
Probablement positif. Mais du coup, effectivement, on a fait pas mal de lieux. On a fait les ateliers du vent, on a fait Epitech, on a fait de la jam, on a fait un tout petit peu Active Design.
Ouais.
Le jardin moderne, forcément.
C'est ça.
L'hôtel Pasteur. Mm. On n'en a pas fait à la fac, mais c'était une option.
Ouais, c'est clair. Ça, bah, c'est pour un budget assez mince, la fac était une bonne option.
L'espace Magenta maintenant.
Ouais.
À l'époque, c'était la cantine numérique.
C'est ça, cantine numérique, tout à fait.
Intégré au comment ça s'appelle, au Mabilet.
Exactement.
Qui est aussi un lieu qui pourrait être chouette un jour.
Oh, ça serait incroyable.
C'est des zéros derrière des zéros. Quand
ouais, c'est ça aussi. Après, là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà des lieux, on commence à avoir des partenariats pour les game jams.
C'est vrai que ça peut être. Enfin, c'est intéressant de le mentionner parce qu'au final, il commence à avoir des gens qui s'intéressent un peu plus à la création de jeux vidéo et d'art numérique en général.
Ouais. Ouais, ça se
développe, et du coup,
ouais.
qui viennent aussi toper à la porte pour dire, par exemple, à la porte de l'EduLab pour dire on aimerait bien faire des choses en rapport avec le jeu vidéo parce que c'est aussi un média qui. Je pense que énormément de gens maintenant jouent. Et c'est aussi un média sur lequel on a envie de faire des choses. Et donc, de par l'EduLab, en fait, on vient nous voir, on relaie un peu la demande, et du coup, nous, on vient nous voir, et je pense que c'est là qu'on peut dire aussi qu'on a fait cette jam, du coup, avec le TNB.
C'est ça, le ciné TNB, oui.
Qui faisait, du coup, un cycle de, en lien avec le jeu vidéo. Donc,
cinéma et jeu vidéo.
Et du coup, c'est là qu'ils sont venus nous voir pour nous dire on aimerait bien faire une game jam, en fait.
Et en fait, ouais, on commence à tisser un petit peu des liens avec différents partenaires via l'EduLab qui, en fait, mine de rien, nous ouvre quelques portes, pas piquer des hannetons, on peut le dire. Ouais, tu veux parler de la 4G Jam, vite fait ?
Je disais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, le jeu vidéo, c'est l'intersection, c'est vraiment le carrefour entre différents médias, que ce soit la musique, le cinéma, l'histoire racontée vraiment avec du texte. L'objectif, c'est... d'avoir vraiment un média participatif. Et donc, ça réunit tous ces angles et le TNB en fait partie.
C'est ça. Et puis après, c'est aussi ce qu'on veut en faire. Hein. C'est-à-dire que nous, les Game Jam, on veut qu'elles soient axées sur différents thèmes. Typiquement, la Global Game Jam, vu que ça se fait dans un lieu où il y a des répétitions de musique, on essaye de pousser le plus vers la musique.
Ouais.
Là, par exemple, c'était le cinéma. Donc, rencontre avec le cinéma. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Ceux qui s'occupent du ciné TNB qui ont voulu faire la Game Jam, ils connaissent pas grand-chose aux jeux vidéo. Et à contrario, nous, on est On n'est pas des amateurs de films comme eux, ils le sont. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun apporte sa graine au projet, quoi. Donc,
ouais. Et c'est avant tout aussi le genre d'événement où on arrive en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire,
ouais.
Et on repart avec des connaissances.
C'est clair.
Et là, en plus, des contacts, des gens et des projets. Et...
Exactement. Le thème, c'était l'affiche de Peau d'âne, ouais. Qui est un film de Jacques Demy. Autant vous dire que nous, Orga et Ledjammer, il y en a un qui l'a vu il y a longtemps. Et on partait d'une connaissance zéro, alors que, ouais. Que ceux du ciné TNB ne comprenaient pas qu'on ne connaisse pas ça.
Ouais.
Et dans la construction du brainstorm, où on a parlé avec des mots un peu barbares, style on fait des platformers ou des shoot'em up, où il a fallu expliquer, bah, c'est un peu comme Mario, ouais. Mais un peu différent. Quoi.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est un peu comme les Sims. Non, je ne connais pas les Sims. Ah oui, donc là, on est vraiment loin.
C'est
quoi.
Vraiment la rencontre de deux mondes, en fait.
C'est ça, ouais. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire à l'Octojam d'avant.
Ouais.
Je refais une virgule, désolé. sur un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts.
Ouais.
Qui nous a filé une superbe affiche.
Ah, c'était top, ça.
Des Lavandières de la Nuit.
Ouais. Très belle affiche.
Super beau, ouais. On avait un panel d'affiches qui avait été sélectionné par quelqu'un qu'on connaissait au Musée des Beaux-Arts.
Ouais.
Et en fait, sur l'ensemble de toutes ces affiches, on a vraiment unanimement choisi en fait, l'affiche qui a été le thème de la jam. En fait.
Et donc, ouais, c'est pareil. Alors, on n'a pas échangé directement avec le Musée des Beaux-Arts parce qu'il y a eu des questions de timing et tout ça. Mais clairement, quoi. Nous, on a moins cette connaissance de l'art que eux, et eux n'ont pas forcément la connaissance du jeu vidéo.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment le mélange des deux qu'on veut créer. Quoi.
Et des fois, organiquement, il y a un thème qui en ressort. Moi, je pense, il y a une année où on avait X musiciens, et on prêtait nos musiciens aux autres sites, notamment ouais. Nantes. Il y a aussi un moment où on faisait deux jams à deux endroits différents, donc une ici et une à Bordeaux.
Ouais.
Il y a aussi eu un moment où on a eu une équipe entière de scénaristes et d'écrivains. C'est vraiment des choses qui arrivent spontanément.
Ouais, scénaristes, dessinateurs de BD, illustrateurs
ouais.
3D. Il y avait vraiment une équipe de ouf, quoi. Et ils ont fait un jeu qui fonctionne en soi avec une intro. Tu te dis, en 48 heures, les mecs, ils arrivent à faire ça. Et c'est super propre.
C'est ultra impressionnant. Ça ouais. donne un peu les chocottes parce qu'on se dit, ah, peut-être que cette année, on va faire un jeu. Je trouve qu'une des traditions top qui est ressortie de ça, c'est que souvent, les musiciens vont publier un album des musiques qu'ils ont produites pendant la jam.
Carrément. Peut-être, Alexis, tu peux en parler.
Oui, d'ailleurs, oui, c'est un bon pont vers les projets qu'on veut aussi mettre en avant. Parce que la musique en fait, qui est créée au sein de ces projets, en fait, elle est souvent un peu oubliée après, derrière. Et je trouve ça un peu dommage. Et en fait, on a eu cette volonté. Donc, à la fois, les jammers qui se sont un peu spontanément mis ensemble pour pouvoir faire un EP ensemble et rééditer en fait, la musique qui était dans les jeux pour en faire quelque chose de consommable en dehors des jeux. Et c'était aussi notre volonté qu'on avait de par l'association de mettre en avant en fait les projets de jam d'une jam à l'autre et par nos interventions sur Twitch, en tout cas nos jams sur Twitch, on s'est dit bah pourquoi pas faire nos intros avec la musique, se resservir ouais. des musiques, se resservir des assets qui ont été créés pendant les jams pour les faire vivre en fait plus, sur un temps plus long en fait.
Et il y a des choses qui se créent vraiment spontanément pendant ouais. les jams. Je me réserve ma propre parenthèse, mais tu en as parlé tout à l'heure. Mmh. C'était le fait qu'il y a pendant l'Octojam, un changement d'heure d'une heure.
Ouais.
Et ça nous a donné une idée, ça aussi.
C'est quoi, c'est Game Jammy ?
Non, la Zero Hour.
C'est la Zero Hour.
Ah oui, la Zero Hour Game Jam.
Alors, Game Jammy en fait partie.
Mais Game Jammy a été fait en Zero Hour, c'est
non,
pour
Game
ça.
Game Jammy, c'était la. Oui, enfin, si, c'était Zero Hour, mais pas dans le cadre
ouais,
de.
Ouais, c'était faire un jeu en une heure, quoi. mais le principe était un peu là, quoi.
Ouais.
Zero Hour Game Jam, donc c'est celle qu'on fait pendant l'Octojam, donc en octobre. L'objectif, c'est de profiter de l'heure qui disparaît, c'est-à-dire l'heure de 2h à 3h au changement d'heure, qui a un laps de temps d'une heure où il faut faire un jeu en une heure.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il l'appelle Zero Hour, parce que bah, dans l'absolu, t'as pas perdu d'heure.
C'est ça. Donc t'as triché et t'es ultra productif.
Voilà, t'es trop fort.
C'est comme ça que ça marche. Hein.
Et donc, ouais, bah, y a des trucs de fifou. En plus, vu que c'est à 2h du mat, un samedi soir, enfin, oui, la nuit de samedi à dimanche, autant vous dire que les gens sont flingués. Donc, les idées sont totalement flinguées aussi.
Ouais, c'est top.
Il y a des trucs pas mal. Et ouais, bah, du coup, on pourrait peut-être faire un pont là-dessus sur le fait que bah, tous ces assets, tout ce contenu qu'on essaye de garder, on essaye de l'archiver, de le garder en mémoire. Ouais. Alors, dans notre petite tête, c'est bien. Après, on a le site qu'on est en train de mettre en place aussi,
c'est ça,
qui recense toutes ces idées-là. Et après, il y a cette volonté, côté Edulab Pasteur, de faire une exposition qui s'appellera Mégamage, et qui a pour objectif du coup, de récupérer tous les assets, tous les croquis, tout ce qui a pu être fait en Game Jam,
ouais,
pour montrer le processus de création d'un jeu de l'annonce du thème jusqu'à la finalité du projet.
Retracer un peu le cheminement d'une Game Jam au travers d'une exposition fixe en soi.
C'est ouais, ça, exactement.
Vraiment raconter une histoire, et ça me rappelle beaucoup ce Stonefest, on avait imprimé des affiches pour tous les projets, on les avait mis dans une mosaïque qui finalement a été presque la photo la plus prise par les journalistes et les médias qui passaient sur les lieux parce que c'était vraiment super beau.
Ouais, et puis ça, en plus ça montre un état de l'art de tout ce qui est présent au Stonefest et bon, bah, faut dire ce qu'il y a, c'est assez qualitatif, quoi. Puis ouais, pareil, moi je suis impressionné par la qualité, enfin nous à la base on faisait des game jams surtout pour avoir des jeux cool et essayer de s'amuser.
Ouais.
Et en fait plus ça va, moi ça me fait un peu flipper, hein, je vous avoue, de voir la qualité des jeux qui sortent à la fin d'une game jam à chaque fois. C'est...
La musique d'ambiance, le niveau graphique, la et le challenge pour moi dans une game jam, c'est vraiment de réussir à faire un jeu fun dans lequel tu vas te prendre. Et on a régulièrement, maintenant, plusieurs jeux comme ça. Je pense notamment à ce jeu que je vais oublier, et je suis désolé, Shushi, mais c'est le jeu avec les pingouins.
Nut Legends.
Nut Legends, voilà. Qui est un jeu presque jouable, fun, vraiment à la fin.
C'est catch game, plug and play, en mode, c'est gauche-droite et deux boutons, et puis voilà. Quoi.
Avec une participation des gens, puisque les enregistrements sont faits avec les personnes sur, sur les lieux.
Il y a Marco Polo aussi qui est comme ça, où tout le monde a fait les sons de Marco et de Polo. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les Game Jams, c'est que c'est très très communautaire et que c'est très participatif.
Ouais.
Et les gens se prennent à la chose, à donner un coup de patte, à aller aider machin. Le sound designer, bah, il va te faire un petit bout de musique si tu as besoin et tu peux aller le voir, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Ouais, c'est bon enfant et tout le monde y gagne à la fin. Quoi.
Et puis y a, du coup, il y a le jeu, mais il y a aussi l'histoire du jeu. Et finalement, ça revient un peu au Stonefest où finalement, il fallait être là, y a des choses qui se passent. Un jour, il y aura des gens comme toi. Alors, on a tous été invités à un moment ou à un autre dans le Stonefest. Et je suis sûr qu'il y a d'autres gens derrière qui seront là, genre, mais moi, j'aime pas le jeu vidéo. Oui, mais attends, le jeu vidéo, c'est aussi de la musique, c'est des histoires, c'est aussi s'amuser, c'est les gens... Donc, ça nous donne un peu... maintenant, on a parlé du passé, on a parlé un peu de l'histoire, on a parlé du présent dont on sort tout juste. Et on peut parler de la suite. Donc, moi, j'ai quelques sujets, là. Je les balance rapidement, mais je pense qu'il y en a potentiellement d'autres dont vous pourrez parler aussi.
Yes.
Y a le fait, y a le Stonefest, qu'est-ce que ça devient, comment ça évolue. Il y a la MJV, je ne dirais même pas ce que ça veut dire, comme ça, on pourra éclaircir ça derrière. Et il y a ce podcast aussi. Ça fait trois sujets, on peut les aborder dans cet ordre-là ou dans l'autre.
C'est déjà pas mal, en vrai, comme sujet. On commence par le Stonefest.
Carrément.
Donc le Stonefest, festival des cultures vidéoludiques, on l'a déjà dit, si vous avez suivi les 1h18 précédentes. Donc il y a une édition 2022, c'est annoncé. Le lieu change, ce n'est plus le Liberté, c'est réparti sur 3 voire 4 sites, à savoir le couvent des Jacobins, la salle de la cité, la salle du jeu de paume et
le théâtre du vieux Saint-Étienne.
Le théâtre du vieux Saint-Étienne où nous serons présents, les Indés en tout cas. Donc les dates, c'est le 20, 21, 22 mai.
Bravo.
2022. C'est à Rennes, hein, j'ai oublié de le préciser, mais ces lieux-là sont à Rennes. C'est tout est autour de la station Sainte-Anne. Donc, tout est à 500 mètres à pied les uns des autres.
Ouais.
très facile.
C'est super accessible.
D'un lieu à un autre.
C'est ça. Donc là, on est en train de prévoir comment on va mettre l'implantation des différents studios qui vont être présents.
Ouais.
De les inviter aussi. Ça, c'est le gros sujet du moment.
Ouais.
On espère entre 25 et 30 studios indés présents sur place. Le lieu a l'air juste incroyable. Nous, ouais. En tant qu'orga, on a tellement hâte d'y être juste pour voir la gueule du lieu quand ce sera habillé et tout. Alors, ça.
Tout n'est pas dans le titre. Pour les gens qui ne connaissent pas le théâtre Saint-Étienne, ce n'est pas vraiment un théâtre, mais plutôt une église.
Alors, c'est une église, mais voilà. Qui est devenue un théâtre.
Voilà. Donc, voilà. Ouais, on vous accueillera, les Indés, dans une église cette fois, ce qui est plutôt top. Et j'aimerais faire un pas en arrière, puisque effectivement, l'année dernière, c'était un peu le relancement, mais la renaissance du Stonefest dans un autre cadre, où il y a des choses dont on parlait depuis un bout de temps, qui ont revécu. Il faut savoir que avant qu'il y ait une pandémie, le Stonefest a été annulé parce que c'était vraiment un événement très très lourd à organiser. 2017, c'est cette édition à laquelle je pense. Mmh. Et il y a toujours eu cette idée que, à l'INSA, c'était fun. D'un coup, on était aux Libertés, c'est un événement énorme. Et on voudrait un peu que ce soit un événement plus dispatché sur la ville.
Ouais, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus.
L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que le Stonefest s'est installé effectivement à la salle de la Cité, un peu plus cosy, un peu plus sympa. Il y a eu des conférences, des choses comme ça quand même. Et puis nous, on a fait notre game jam à l'hôtel Pasteur.
C'est ça.
Donc on était un peu en train de tester les lieux pour cette édition de cette année que je pense va être phénoménale.
Bah, en tout cas sur le papier ça va être incroyable. Nous, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a toujours été dans une succursale du lieu principal, hein, c'est-à-dire que on va pas nier que c'était très bien, hein, le premier étage du Liberté.
Ah non, c'était
top. Mais là on a un lieu pour nous,
ouais.
Qui a l'air très très cool.
Et aussi je pense que en fait on se projette aussi pas mal sur les possibilités, parce que le lieu, enfin le Liberté, on le connaissait bien. Au fur et à mesure des années d'y être, on savait c'était quoi les limitations, on savait ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait pas faire, et à peu près on avait d'une année sur l'autre les implantations qui étaient déjà à peu près faites, même si ça bougeait un petit peu. Mais là, cette année, c'est vraiment un peu le renouveau complet, ouais. Et de se dire, en fait, on a peut-être plus de liberté, plus de choses qu'on peut faire. Sans Liberté.
Voilà.
Plus de liberté. Oh, c'est beau ça.
Et du coup, ça, c'est aussi, ça donne envie en fait de se dire peut-être que, en fait, on peut faire une édition de fou et préparer des choses qui vont marquer un peu les esprits en fait, et de se dire, en fait, les gens qui vont venir à cette édition-là vont se dire, ah, c'est ça le Stonefest. Et
ouais.
En fait,
ouais.
Même ceux qui étaient venus les années précédentes vont dire. En fait, c'est vraiment plus la même chose, quoi. C'est...
Non, vraiment pas. Et je pense que je félicite toutes les personnes qui participent à ça, parce que il y avait une sorte de direction dans laquelle allait Stonefest, où ça devenait de plus en plus grand. Si j'imagine qu'il y a un univers parallèle où Stonefest est devenu énorme et comme
multinational,
comme plein d'autres événements affinés au couvent des Jacobins.
C'est ça.
Et là, on prouve qu'on peut faire un événement vraiment mieux, plus dans la tendance que ce qu'on voudrait avec le Stonefest, sans pour autant être au couvent des Jacobins.
C'est ça. Exactement.
Ouais, c'est ça. Après, moi, je sais pas exactement comment est le couvent des Jacobins à l'intérieur, mais c'est vrai que par exemple, ça avait été mentionné l'idée de pourquoi le Stonefest ne va pas au Parc Expo. Et en fait, ça, c'est aussi un truc où justement, en fait, on serait arrivé dans une dimension un peu plus, je dirais, froide.
En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que là où ça marche le mieux, le Stone, c'est dans une salle type. Enfin, type gymnase ou genre de truc où ça prend pas une ampleur de ouf, et il y a ce côté un petit peu fait main, quoi, fait maison. C'est pas genre les Geek Days où ils prennent le Parc Expo, il y a plein de stands, il faut faire des sous, quoi.
Ouais.
Là, c'est pas l'objectif du truc. L'objectif, c'est de promouvoir la culture vidéoludique au sens large du terme, quoi.
Ouais. Et les événements qui nous marquent le plus sont ceux où le lieu appartient aux gens. Et finalement, il y a le sentiment que ça a été aussi fabriqué au fur et à mesure et que c'est très organique. C'est propice à fabriquer des choses, c'est propice à être créatif, et c'est pas juste un carré blanc où on a un espace maîtrisé.
C'est ça, exactement. Je finirai peut-être là-dessus sur le Stone. L'espace indé, alors pas tout le Stonefest, mais l'espace indé sera gratuit. Donc,
c'est top.
Ouais, raison de plus d'y aller, parce que ça vous coûte absolument rien d'y aller, si ce n'est de trouver des jeux super cool qu'on va vous présenter. Et qui seront accessibles à tous.
Où est-ce qu'on peut se rendre pour avoir des infos là-dessus?
Studentfest.com. Voilà, tout ouais, simplement.
Non, le Twitter d'Indie Collective.
Le Twitter d'Indie Collective, abonnez-vous, mettez la cloche, hein, n'hésitez pas.
Le Twitter de JMJ, si vraiment vous voulez la narrative un peu gaucho.
Mais ouais, Stunfest, un gros, gros dossier, mais ça va être très, 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 très cool. Bon, on le dit tous les ans, mais ça va être encore plus cool cette année.
Ouais, c'est top. Hein. Deuxième sujet, ultra d'actualité, puisque là, on est vraiment sur les lieux, là, avec François.
Directement. Qui... Ah oui, tout à fait.
Donc la MJV, mais qui est une histoire finalement assez vieille. On peut revenir un tout petit peu dans le passé avec un vote de la part des habitants de Rennes. Et aussi Pixel Club.
C'est ça. Alors Pixel Club, ça part de 2017. Franchement, cette année-là, c'était incroyable, quoi. Il y avait tellement de trucs. Donc,
2016, l'année de la Suisse. On a eu 2017.
Ah, 2016, l'année de la Suisse, c'est vrai. Ouais. On n'a pas parlé des Suisses, on les embrasse. Hein, on leur fait des gros bisous à nos devs suisses. On a plein de Loïc Raison chez nous, ne vous inquiétez pas. Ça part de 2017, Pixel Club, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une AG de 3Hit et il y a eu une volonté de créer une asso à côté de 3Hit qui s'appelle le Pixel Club pour pouvoir créer un lieu unique où on peut se rassembler autour du jeu vidéo.
Unique et permanent.
Et permanent, ouais. Tout à fait. Et donc le projet a germé. Comme tu as dit, il y a eu un vote participatif à la Fabrique Citoyenne qui est... un vote à l'ampleur de Rennes Métropole qui permet de voter pour les projets qui importent.
Oui, en fait, c'est des projets citoyens. Donc, les citoyens mettent sur la plateforme, enfin, il y a un appel à projet, entre guillemets. Les citoyens proposent des choses et derrière, il y a un appel au vote où chacun va voter pour comment dire, les projets qui les intéressent le plus. Et là, derrière, la municipalité va faire une sélection pour dire tous ces projets-là qui ont émergé, en fait, on va les financer ou trouver une solution, en tout cas.
Donc, il y a eu des espèces de bibliomachins là où on stocke des livres pour les prêter aux gens. C'est un nom spécifique, mais je me rappelle.
Ouais, boîte à livres.
Boîte à livres.
Voilà. C'est ça. Il y en a eu plusieurs.
Il y a eu ton skatepark préféré à ton endroit préféré.
Il y a eu des constructions de ponts aussi.
Ouais, ouais.
C'est pas n'importe quoi.
Oui, un jardin à la japonaise, il me semble aussi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Donc, il y a eu plein
et donc, la finalité, c'est qu'il a fini troisième, ce projet-là, le projet de Pixel Club. Troisième à la Fabrique Citoyenne.
Ouais. Donc déjà, ça marque qu'il y a quand même pas mal de gens sur Rennes qui sont fans de jeux vidéo.
Ouais, voilà. Et puis, ben, mine de rien, derrière, ça enclenche des subventions de la ville de Rennes. Et donc, ben, derrière, le projet peut voir le jour, quoi. Fast forward, ouais, parce qu'il y a eu le Covid et tout ça. Je vous passe, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais fast forward à maintenant. C'est-à-dire que cette semaine, il y a eu l'assemblée constituante de l'association Maison du jeu vidéo à Rennes. Où, en tout cas, 3Hit et Indie Collective vont représenter un collège, le collège Association, au sein de la maison du jeu vidéo qui va s'ouvrir. Alors, on espère.
Un jour.
On est parti sur le fait de se dire que septembre, c'est quelque chose de viable.
Top.
Donc, on partirait sur.
Barbecue.
Voilà, pour pouvoir préparer une rentrée avec cette. Ce lieu-là, le lieu est déjà trouvé, là, il y a déjà des travaux qui sont en train d'être faits dans ce lieu-là, donc il n'y a plus qu'à finir les travaux et puis
investir le lieu,
tout à fait.
Et donc, pas de spoiler, mais on retrouve quand même des visages familiers, donc Active Design, des gens de Concrete Game.
C'est ça, tous les gens qui gravitent autour de 3Hit et de nous, on les retrouvera là-bas, les créateurs qui vont pouvoir avoir un lieu justement pour pouvoir... concevoir leur jeu, donc il y aura des créateurs résidents et d'autres non résidents en fonction de ceux qui veulent rester dans le lieu, mais l'objectif c'est vraiment d'être un point de référence autour du jeu vidéo sur le bassin rennais.
Oui. Ça a l'air chouette l'avenir. Alors, on peut parler du podcast, c'est peut-être le sujet final puisque c'est un peu la logique des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'avenir d'Indie Collective qui pourraient être intéressantes, des choses à promettre potentiellement à donner?
Non, on est politique, hein. Wow.
Non, après je pense qu'on peut vite fait mentionner Community, c'est un projet un peu historique de l'association, même si pour le coup ça reste quand même très hybride, enfin très dans l'œuf, on va dire. Le but, c'était vraiment à la base de faire un recensement en fait, de l'associatif, du professionnel et de tout ce qui se passe dans une ville au sein de, enfin, de, non, au contraire, d'un jeu vidéo au sein d'une ville, et de pouvoir derrière comment dire, présenter ça en fait sur une plateforme participative, en tout cas communautaire.
Ouais.
Et donc ce projet-là donc, est encore très, très jeune et qui demande encore pas mal de travail. C'est quelque chose qu'on va avancer. Et comment dire, et je pense que c'est, enfin, en tout cas, c'est déjà disponible en ligne, hein, mais c'est petit pour l'instant.
C'est en construction. J'ai envie de dire, comme les endroits que nous avons préférés pour nos événements, c'est un tout petit peu roots. Hein, donc c'est une bonne chose.
Ouais, voilà. Mais ça se construit petit à petit. C'est en vrai, en tant qu'insider, je trouve ça vraiment cool comme projet, et je pense que c'est quelque chose qui existe, mais peut-être pas de cette façon-là. Et c'est nécessaire d'avoir une plateforme comme ça, juste. Pour savoir ce qu'il y a autour de toi, et puis deux, savoir ce qui s'est passé dans le passé, et te retrouver à un endroit propice, quoi.
Retrouver des gens, donner des ressources.
Ouais, c'est ça, tout simplement. Quoi.
Permettre la connexion de la fibre créative de Rennes.
Oh, c'est surtout la découverte, en fait. C'est surtout ça qui est un peu au cœur du projet, c'est de découvrir en fait, des projets, découvrir des associations, découvrir des événements.
Et donc, on revient sur les objectifs de l'asso, finalement.
Yes.
C'est les 4 jams que peut-être cette année, on va vraiment pouvoir faire tel que nous le souhaitions à la base.
Croise les doigts.
Voilà, on croise les doigts. Et c'est aussi le Stunfest qui revient d'autant plus fort et qualitatif qu'avant, finalement. Donc, ça s'aligne bien. Il y a ce site web, qui, cette ressource communautaire de liaison et d'archivage, finalement, qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, il y a ce podcast dont vous êtes dans le premier numéro, numéro 0, du coup.
Numéro 0.
Numéro 0, après
le projet.
Moi, je vais présenter les choses parce que numéro 0, pourquoi ? Parce que, comment dire, en fait, dans ce projet de podcast, ce qu'on veut faire, c'est inviter des gens, donc des créateurs indés, pour pouvoir leur poser des questions de c'est quoi le processus créatif d'un jeu ? C'est quoi votre parcours ? Et plein d'autres choses sur lesquelles on peut axer, en fait, autour de la création de jeux vidéo, de demander. Et en fait, on a fait cette première version de podcast pour pouvoir tester un peu aussi dans des conditions réelles comment ça fonctionne et voir si ça peut marcher. Enfin.
Ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément que des créateurs indés, c'est vraiment des gens qui gravitent
autour du
monde indé. Ouais, tout à fait.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait très bien inviter des gens qui sont pas forcément créateurs, mais qui sont
qui ont moins cette connaissance et ce goût. Des jeux indés et de.
Ouais. En tout cas, disons que pour l'instant, les premiers invités sont plutôt.
Ah, ne spoil pas.
Je ne spoil rien.
Mais il y a cette volonté de plutôt pas faire de la branlette intellectuelle entre nous, mais plutôt d'avoir des gens qui ont construit des projets et qui ont avancé dans leur jeu pour voir quel aura été leur avancement, comment ils ont eu. L'idée de tout ça, etc.
Ouais, les difficultés, servir d'inspiration aussi.
Totalement, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
C'est aussi de post-mortem en soi.
Voir, donner... alors, la première chose que dit une personne qui arrive dans une jam pour la première fois, c'est « Oh là là, ça a l'air compliqué, les jeux vidéo, moi je ne sais pas trop où faire. » Et tout le monde est passé par cette étape-là. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, on parlait de Indie Game The Movie. Ça montrait vraiment des gens comme Phil Fish qui fabriquaient des jeux vidéo, qui en chiaient un peu pour être incorrect, mais c'est vraiment exactement ça. Et ça te montre que justement c'est difficile. Et le fait de permettre aux gens de raconter leur histoire, eh bien ça te fait te rendre compte que si c'est la galère pour toi. Si tu réussis pas forcément à avancer, eh bien c'est normal, le jeu vidéo, c'est aussi difficile, la création, c'est pas évident.
Et puis il y a autant d'histoires de création de jeux qu'il y a de personnes, hein, donc c'est pour ça qu'on veut tous ces numéros avec différentes personnes pour pouvoir voir quelles sont leurs affinités, comment ils en sont arrivés à une finalité qui est la leur, quoi.
Oui, c'est ça, je me souviens de ce qu'on en parlait un peu de cette idée de podcast, c'est aussi de pouvoir à la fois avoir des créateurs qui soient débutants et qui racontent en fait c'est quoi la première fois qu'ils ont fait un jeu, comment ils se sont débrouillés, et puis aussi des créateurs qui sont plus expérimentés, qui sont peut-être leur troisième ou quatrième jeu et qui sont là. Bon, maintenant en fait on a tout appris ça du monde et comment on peut passer d'un projet à un autre, l'évolution en soi.
D'ailleurs, je fais ma petite promotion perso, mais il y a une série sur le net qui s'appelle War Stories, qui est sur YouTube, où justement des créateurs de jeux très très connus, comme Oddworld, des choses comme ça, raconte la galère que c'était de fabriquer un jeu vidéo. Mmh. Genre, on n'a pas de budget, le truc plante complètement, l'équipe est complètement HS, et comment ils ont pu s'en sortir. Alors, c'est plutôt des jeux, par exemple, Prince of Persia, où il se dit, bon, ok, j'ai 8 octets pour fabriquer mon jeu, comment je peux faire un ennemi alors que j'ai uniquement la place pour faire mon protagoniste principal ? Et qui raconte techniquement comment ils s'en sont sortis. C'est de la magouille, c'est du hack, hein, et systématiquement, c'est ça le sujet du jeu vidéo, c'est pas propre, mais le résultat, il est super.
Ouais. Bah, du coup, j'ai hâte d'être au prochain, prochain épisode. Moi.
Donc on spoil pas tout de suite, peut-être qu'on peut parler de la posologie, entre guillemets, donc à quelle fréquence est-ce qu'on pense vers ça ?
Je pense que ce serait plutôt mensuel, ou bimensuel, enfin...
Ouais.
Non, bimensuel, c'est deux fois
ouais, par bah, une fois tous les deux mois,
c'est tous ça les deux que... Mois, ouais.
Ouais.
Oh là là.
Une fois tous les 1 ou 2 mois.
Exactement, une fois tous les 1 ou 2 mois, je pense que ce serait un peu un rythme en fait qui serait à la fois agréable pour nous comme pour vous, puisque bon, là on en est à 1h30 de blabla.
Est-ce que vous êtes encore là?
Si vous êtes encore là, mettez des commentaires.
Mettez un pouce bleu, mettez la cloche.
Mais comment dire, ouais, c'est... Après, c'est un truc qu'on va aussi doser, je pense, en fonction des participants, des invités. Pour comment dire, savoir aussi comment dire, quelle est la limite, quelle est la bonne durée. Quoi.
Quels sont les sujets, quelles oui. sont les histoires. Et puis les gens sont différents, des fois ils viennent de loin, des fois ils ont plein de choses à raconter, des fois il faut les pousser un peu. Donc on va voir.
Ouais.
C'est ça. Donc on arrive un peu sur la fin. Moi je dirais ouais. La suite c'est suivez-nous. Où est-ce qu'on peut suivre l'association justement?
Normalement tous les réseaux, hein. Soit c'est IndieCall, soit c'est Indie Collective.
Ouais.
Donc, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, Twitch.
Est-ce que partout, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on a tout sur notre site indico.xyz?
Peut-être pas tout.
Eh ben, il va falloir tout mettre.
On va ouais. peut-être rajouter.
Mais ouais. comme ça, au moins, ça vous fait un endroit où vous pourrez retrouver
Après,
tout.
Après, on a un Linktree où il y a tout.
Oui, c'est vrai. Mais on pourrait faire un lien vers le Linktree aussi.
Oui, c'est ouais. ça.
Mais au moins, indico.xyz, vous retrouverez pas mal de choses, notamment le lien pour adhérer à l'asso, parce ouais. qu'on n'en a pas du tout parlé, mais on souhaite avoir des adhérents pour pouvoir continuer à faire des game jam et avoir un petit peu de sous, hein. On va pas se le cacher.
Ouais,
et puis voilà quoi, faire grossir.
N'hésitez pas déjà aussi à surtout rejoindre le Discord pour voir si vous avez envie de parler de jeux indés, de création, nous présenter vos projets. Je vois que ces dernières semaines, il y a eu quelques petits projets qui ont été balancés sur le Discord.
Puis des vraies discussions cool. derrière quoi.
Et oui, bah oui, parce que justement, c'est pas mal aussi. En fait, il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont pas forcément l'expérience, d'autres qui ont un peu plus d'expérience, qui réagissent en disant attention là, peut-être, machin. Et du coup, c'est toujours bien, ça lance de la discussion et puis ça fait évoluer tout le monde, donc c'est vraiment cool.
Ouais.
Voilà, donc nous suivez-nous un peu partout, ça fait plaisir.
Twitch
le
aussi.
YouTube sur
ouais, le Twitch aussi.
Du coup, d'ailleurs, oui, Twitch aussi. Hey. Pour les fois où on se lance en game jam ou quand on lance des parties de Monaco.
C'est vrai, Monaco 2 a été annoncé hier, donc voilà.
Et du coup, ouais, et puis sur YouTube, ça peut être intéressant aussi parce que je pense qu'on mettra des références de choses dont on a parlé. Et puis bon, il y a la vidéo si vous voulez voir nos têtes.
Hein. C'est mieux.
Ben en tout cas, vous pourrez nous retrouver dans ce podcast. Moi, je dirais une note finale de ma part, en tout cas. Le feedback, c'est ce qui nous fait fructifier, donc venez nous voir. Dites-nous ce qui vous intéresse, dites-nous ce qui serait intéressant de discuter, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dites-nous, parlez-nous de vos projets aussi. Une note finale, Alexis ?
Oh non, c'est nul. C'est nul, je me suis dit. Ah non, il y a Yvan qui applaudit. Mais non.
Finalement, nous ne nous rejoignons pas.
Non, pas de note pour Alexis, pas de note finale.
Bon, attends, si, je crois qu'il y a un.
Non, ouais. non, c'est genre. Ah bah oui, bravo.
C'est top. Ouais.
On va arrêter par contre. Ça suffit.
Alexis, tu peux retenter le coup.
Ouais, non, je sais pas. Du coup, suivez-nous, adhérez, comme dire, venez nous poser des questions. Si vous êtes intéressé par la création indépendante, rejoignez l'association aussi, pourquoi pas.
Ouais, top.
Et puis, on espère vous voir pour le prochain podcast avec notre invité.
Carrément.
Ouais, ou prochain Stunfest pour pouvoir venir nous parler, nous toucher. Ce serait vraiment cool, quoi.
C'était à notre finale, le perroquet. Là,
ouais, le perroquet comme ça. Là. Non, et puis moi, je voulais juste dire que le jeu indé, c'est cool dans toute sa forme. Ouais. Et les game jam aussi, c'est cool. Donc, si le cœur vous en dit, venez Endgame Jam, on ne mord pas.
Non.
Et franchement, vous passerez un week-end super cool où vous aurez la banane en ressortant.
Oui.
Et ça, ça fait plaisir.
Vous serez fatigué, mais avec une bonne raison.
Ouais, voilà. Il y a plein de gens qui reviennent, donc pourquoi pas vous ?
C'est ça. Eh ben, c'est top. Ben, merci beaucoup. Vous avez été super patient si vous êtes arrivé jusqu'ici. On peut peut-être balancer des mots de passe de trucs pour les gens qui sont arrivés jusqu'à 1h40. Eh bien, c'est top. Premier ouais. podcast. Merci ouais. beaucoup.
On a bisous. Des applaudissements ou pas
Non.
Non. Au secours.
Voilà, bravo.
Au secours, il a pourri la fin.
Donc, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, à dans un mois à peu près.
Ouais. Yes.
Et j'espère que numéro. Vous allez me rejoindre. À très vite, en réel, en virtuel, comme vous voulez. Et
des bisous.
On vous aime tous. Des bisous.
Allez.
Salut.
Salut.
Au revoir.